Allô?
Oui, la régie.
Est-ce que nous sommes à l'antenne?
Oui, je crois que la liaison a été faite. Je
ah oui, en effet, c'est...
Tout à fait.
On nous fait signe, effectivement.
Mon casque me fait dire que nous sommes à l'antenne.
Génération Soccer.
La radio qui déboîte.
Bienvenue sur Génération Soccer, nouvelle émission spéciale Ligue 1 ce soir avec vous. Vous êtes maintenant habitués. Toute l'équipe est là. On fait un petit coucou avant de commencer l'émission. Roméo qui n'a pas pu nous rejoindre pour des problèmes de santé. Ce soir, évidemment, on va revenir sur cette 20e journée de Ligue 1 qui s'est clôturée hier soir avec la rencontre le Bordeaux-Marseille, un but partout. On va y revenir longuement dans cette émission. On parlera également de Saint-Étienne et peut-être d'une lueur d'espoir pour les Stéphanois après un début de saison galère. On parlera également en fin d'émission, hein, on fera un petit tour d'horizon des Français qui sont un petit peu partout en Europe, et notamment Franck Ribéry. Est-ce qu'il faut comment interpréter la situation de Franck Ribéry entre des déclarations les unes et les autres dans la presse et des blessures à répétition. On va voir un petit peu la situation de Franck Ribéry. On reviendra également un petit peu sur les relégables de la Ligue 1 actuellement, les problèmes extrasportifs entre guillemets qu'il y a eu dans les stades, l'arbitrage, les affrontements entre supporters, etc. Vous avez vu le programme très 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 chargé pour ces deux heures de débat after avec vous. Et avec ce soir, Hugo.
Bonsoir à tous. Et bonsoir, tout simplement. J'espère que vous avez passé un bon week-end et j'espère que vous n'avez pas regardé Bordeaux OM. Parce que si vous l'avez regardé, vous avez dû perdre, comme nous, deux heures de votre précieuse vie.
Exactement. Et on sait qu'on peut faire beaucoup de choses en deux heures, Hugo. C'est pas toi qui me contredira. Il y a également Loïc ce soir. Salut, Loïc.
Oui, salut, bonsoir à tous, et puis bonne année, je ne vous ai pas vu plus.
Eh ben oui, bah, ça sera peut-être temps quand même, 18 janvier. Hein, donc, on a également Chris qui gère en off, donc on le salue, et également ce soir avec nous, Yac, comment vas-tu?
Salut Arnaud, bah écoute, ça va, malgré, comme tu l'as si bien souligné, ce match de merde hier soir, on survit.
Ah, effectivement, on en a vu d'autres, t'inquiète pas, avec la Ligue 1, on est immunisé pour ça maintenant. On va donc commencer par l'actualité chaude, messieurs, vous l'aurez compris. Ce match Bordeaux-Marseille, un but partout. Je rappelle le nom des buteurs, Chamac, ou alors but contre son camp de mandat, je sais pas comment on va l'attribuer, plutôt but contre son camp de mandat, pour le premier but Girondin, et Chéroux avait répliqué aux alentours de la 80e minute. Yag, je vais te laisser quand même commencer parce que au-delà de revenir sur le match, vous avez sûrement entendu des analyses un petit peu sur les différentes chaînes et radios sportives dans la journée. Tu voudrais revenir sur plusieurs éléments extra-sportifs, que ça soit notamment l'arbitrage, et puis on regardera un petit peu plus en hauteur un peu les performances des Girondins lors des gros matchs. On s'apercevra que Bordeaux lors de grands matchs n'est peut-être pas forcément l'équipe que l'on connaît durant toute la saison.
Ouais, bah en ce qui concerne l'arbitrage, c'est surtout une grosse erreur qui influence tout le reste du match, parce que bon, c'était un match hyper fermé, un but avant la mi-temps qui change chose, qui fait que Laurent Blanc décide différentes raisons de faire un changement qu'il aurait sans doute pas fait sans cette erreur d'arbitrage et qui a sans doute influencer le reste du match. Donc, bon, voilà, c'était Duhamel au sifflet. Alors, Duhamel, faudra quand même expliquer.
Il rétablit.
Ouais, un spécialiste, c'est son terrain, c'est les boulettes, quoi, je sais pas. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi on s'obstine à le mettre dans des matchs comme ça. Moi, je me rappelle de. C'était en décembre, il y avait Lyon-Bordeaux. C'était Lannoy au sifflet, il était très bon. Pourquoi on s'obstine à mettre Laurent Duhamel qui, en plus d'avoir des assistants un peu douteux, surtout sur les hors-jeux, qui fait beaucoup d'erreurs, qui met des cartons quand il faut pas, qui siffle des fautes qu'il faut pas. Voilà, c'est l'exemple typique du mauvais arbitre français. Donc voilà, c'est juste incompréhensible.
Bah, c'est vrai que C'est vrai que au-delà de ça, l'expulsion de Planus, par exemple, enfin, pour moi, l'expulsion de Planus, ça fait énormément de débat. Bon, sur le but, on est d'accord, mais pour l'expulsion de Planus, par exemple, on sait, pour ceux qui ont pu regarder le match sur Canal+, que Dugarry a longtemps critiqué la décision de l'arbitre, comme quoi ce serait une compensation. Mais en tout cas, moi je trouve, et je suis même persuadé, que c'était pas du tout une compensation dans la tête de l'arbitre, compte tenu du fait que Planus a séché par derrière Niang qui allait tout droit, qui filait tout droit au but. Donc pour moi, si on veut bien mettre les choses au clair, il y a une erreur d'arbitre, une grosse erreur d'arbitrage hier, c'est effectivement Mandanda, comme tu l'as souligné, Yac. Mais c'est pas. En tout cas, l'avis, je ne partage pas l'avis de certains qui disent que l'expulsion était imméritée. Nar?
Bah, moi, je suis globalement d'accord avec toi, parce que autant, comme tu l'as dit, le but, c'est sûr qu'il y a faute de Chamakh, autant l'expulsion de Planus, je la trouve relativement logique, parce que certes, il n'est pas dernier défenseur, mais on sait que le fait d'être dernier défenseur ne compte plus vraiment dans les règles des cartons rouges. Et au final, il fait quoi? Il annule une action de but. Une réelle occasion de but parce que Niang filait vers Ramé, il me semble, Ramé ou Carrasco, je ne sais plus si c'était encore Carrasco.
C'était encore Carasso, effectivement.
C'était encore Carrasco. Et en plus, donc, il tacle un peu par derrière. On voit très bien qu'il peut, à aucun moment, quand il tacle, il peut avoir le ballon. Donc, au final, est-ce qu'il y va? Il y va pour stopper Niang, il n'y va pas pour enlever le ballon, il y va
On est
juste.
tout à fait d'accord, c'est surtout qu'on a souvent fait ce débat-là. Tu sais que on disait normalement tacle par derrière, c'est carton rouge. Et en l'occurrence, là, il n'y a pas mieux tacle. Enfin, je ne vois pas de meilleure illustration en matière de tacle par derrière, si je peux m'exprimer comme ça.
Ah ouais, non, c'est clair, là c'était par derrière, c'était à aucun moment il veut chercher le ballon, il veut stopper Niang. C'est une action, c'est un tacle d'anti-jeu qui annule une action franche de but, donc il n'y a aucune contestation possible pour moi, il y a carton rouge, tout simplement. Donc parler d'erreur d'arbitrage, alors certes, on connaît Dugarry, on sait que Dugarry, pendant tout le match, nous a fait comprendre que son passage à Marseille ne l'avait pas forcément positivement marqué et qu'il aimait beaucoup la ville de Bordeaux. Donc est-ce qu'on peut croire un supporter, parce que c'est plus un commentateur là, c'était un supporter, sur ce genre d'action? Je pense pas. Pour moi, objectivement, n'étant ni supporter de Bordeaux ni supporter de l'OM, je pense quand même qu'il y a carton rouge.
Je suis d'accord avec toi quand tu dis, bah, pour moi, il y a carton rouge, c'est clair, hein. Après, est-ce que Dugarry, bah, pour parler de Dugarry, on s'en fout un peu, juste pour l'histoire, bah, moi, j'entends toujours parler du journaliste qui analyse ce genre d'action, il parle toujours de dernier défenseur. Alors, le truc, c'est même pas de savoir si c'est méchant, si c'est dangereux. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il est dernier défenseur ou pas? T'as l'impression que c'est le seul critère pour mettre un carton rouge. Alors que, bon, voilà, dans le foot, il n'y a pas que ce critère-là pour mettre un carton rouge, quoi. Donc, moi, je pense que dans sa tête, son seul point de repère, c'est dernier défenseur. Donc, il interprète que c'est pas le dernier défenseur, donc pour lui, pas de carton rouge. Moi, je vois plus ça comme ça que la réaction du supporter chauvin bordelais, quoi.
Et pour appuyer tes dires, Yac, c'est vrai qu'en plus, c'est d'autant plus ridicule parce qu'à l'entendre hier, t'aurais pu coller un pain à un joueur au milieu de terrain, mais l'instant que c'était pas dernier défenseur, ça allait. Il a même dit l'ineptie, il est même allé jusqu'à dire, vu la gravité de la faute, ça mériterait pénalty. Ça veut dire quoi? Ça mériterait pénalty parce que c'est en dehors de la surface. Ça veut
Ouais,
strictement rien dire.
il dit que la faute est scandaleuse, que c'est un attentat, machin, mais c'est pas dernier défenseur, c'est pas voilà.
Donc c'est ridicule. Est-ce qu'on a réussi à avoir Roméo qui passe avec nous en coup de vent peut-être? Est-ce que t'es là, Roméo?
Allô.
Et
Ah,
effectivement,
Romé.
ça. Bonsoir, Roméo. Comment vas-tu?
Ça va un peu fatigué, mais
un peu fatigué, mon gars. Et c'est ça de travailler. Il n'y a pas habitué aux 35 heures de Martin Aubry depuis les années 2000, lui, ce gars-là. Mais voilà, ça va le faire du bien. Oui, tu voulais réagir directement sur justement l'histoire du dernier défenseur dont on parlait avec Yak et Hugo là.
D'ailleurs, à propos du dernier défenseur, il y a une excellente intervention de Bruno Derrien, signalé qui a bien défini cette règle et cette règle dont on parle tout le temps, le dernier défenseur, eh ben, n'existe pas. Le truc, c'est que Planus, il me semble bien que c'est Planus qui tacle, anéantit clairement une action de but. Et c'est ça qui compte dans la règle. À chaque fois, on entend Joaquim Noum, que ce soit Derrien récemment, qui réagit par rapport à ça. Cette règle de dernier défenseur, elle n'existe pas. C'est quand le défenseur anéantit clairement une action de but qu'il y a carton rouge.
Alors,
Si,
ouais,
si je peux me
le
permettre,
problème après.
si je peux me permettre juste une petite précision,
Ouais.
un complément de ce que tu as dit, Roméo, le règlement,
Oh
parce
là
que.
là, les agités arrivent en masse sur Génération Soccer, ça débarque sur le plateau, c'est magique.
Non, je suis un petit peu souffrant, mais ça va, je me remets dès qu'on parle de football. Mais si je peux me permettre un petit complément d'information, j'étais arbitre, donc le règlement là, on le connaît vraiment bien. Effectivement, c'est une légende, cette histoire de dernier défenseur, c'est quelque chose qu'on met toujours en avant. Mais en gros, ça veut dire ce que tu as dit, Roméo. C'est-à-dire que si le défenseur ou le joueur empêche une occasion nette de but, il faut l'expulser. Et s'il il empêche une occasion indirecte de but, il faut l'avertir. Voilà, le règlement
Ouais,
exact.
voilà.
Mais
C'est ça, c'est la règle, la loi,
c'est
c'est
interprétable, hein.
annie une occasion de but ou une action, enfin, je n'ai pas les termes exactement, mais c'est ça, l'idée c'est ça, c'est qui casse une action de but, quoi, en gros. Le problème c'est que, et l'action d'hier est vachement parlante, si Niang y passe, est-ce que c'est une action nette de but ou pas? Voilà, alors après, on a l'habitude de définir. Comme point de repère, le dernier défenseur. Quand c'est le dernier défenseur, là, on est sûr qu'il y a une action de but. Alors, mais effectivement, c'est pas dans la loi. La loi, c'est uniquement de casser une action de but.
Ouais, mais c'est hier, quand on regarde quand même l'action, Niang arrive vraiment dans la surface et on sent qu'il est limite, au moment de se faire tacler, il est limite en train d'armer une frappe. Donc on sait qu'il va frapper. Et même si il s'entre en retrait, ça fait quand même une action de but. Donc là, de toute façon, je pense, on connaît Niang et on voit très bien sur l'action qu'il accélère pour ensuite frapper. Donc au final, si l'action avait été à 30 mètres du but et que Planus n'avait pas été le dernier défenseur et que un autre défenseur était à côté de Niang, là, on aurait pu peut-être dire que c'était pas vraiment une action de but.
Alors,
Là.
est-ce que c'est une occasion nette de but? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est finalement que ça, une occasion nette de but. Que
Pour moi.
voilà, je veux dire, n'importe quel attaquant, tu peux mettre Drogba ou Torres ou je sais pas quoi en position de Niang hier et tu peux parfaitement la rater, hein.
C'est
Oui.
le problème du règlement, et c'est ce que j'ai posé.
Ah, c'est cette difficulté.
C'est le problème du règlement parce qu'il laisse, et c'est le problème en général des règlements de UEFA, et même de tous les règlements entre guillemets dans les championnats nationaux, c'est qu'il laisse une part trop importante d'interprétation. Alors il y en a qui disent que c'est bien, et, enfin les défenseurs des arbitres disent que c'est bien. Moi je pense pas que ce soit bien, voilà. Mais bon, c'est le problème de l'interprétation qui est laissée vraiment de manière beaucoup trop
Oui,
exagérée, pardon, dans le règlement.
mais alors Chris, si tu ne laisses pas la part à l'interprétation, tu laisses la part à quoi? Enfin, je veux dire, comment tu veux juger?
Je sais
Après,
pas,
tu peux savoir,
je pense
après,
que.
tu peux savoir si oui ou non, rationnellement, c'est une occasion nette de but ou pas. Tu peux pas. Tu peux
Mais
pas.
tu es d'accord avec moi que du moment que c'est le dernier défenseur, ça veut dire que le gars part au but.
Est-ce
Le
que là,
chiffre.
c'est le dernier défenseur? C'est
Il...
pas si évident que ça.
Mais l'histoire du dernier défenseur, en fait, si je peux, je pense que j'ai un petit peu réfléchi, enfin, j'ai longtemps réfléchi par rapport à ça. Il se trouve que quand on dit dernier défenseur, c'est presque impérativement, presque obligatoirement une occasion nette de but. Dès que c'est le dernier défenseur qui fait la faute,
On est typiquement dans ce cas-là. Et c'est pour ça que quand les gens disent dernier défenseur, les gens disent c'est logique dernier défenseur. Et effectivement, ils ont raison, les gens, quand ils disent dernier défenseur, il doit être expulsé. Oui, mais la cause exacte, ce n'est pas dernier défenseur. Et c'est ça qui crée aussi une certaine confusion et dans les genres, j'ai envie de dire.
Très bien, monsieur. Bah, je pense qu'on a été assez complet sur cette histoire-là, d'éclaircir un petit peu cette idée toute faite, parce que nous, on combat les idées reçues on est pire que Kant ou Aristote ou Platon. Nous, on est des vrais philosophes sur Génération Soccer, si on combat les idées reçues du football. Et on a bien éclairci cette histoire de dernier défenseur qui est assez ridicule, on doit l'admettre. Donc on va revenir maintenant évidemment un petit peu plus globalement sur la rencontre qui s'est déroulée hier. Alors peut-être un petit mot, comme on a commencé un petit peu à parler de Bordeaux avec Yac tout à l'heure, un petit mot sur l'OM avec toi Roméo, parce que Marseille, je sais que j'en ai parlé un petit peu en off avec toi, t'as déçu au départ et puis ne s'est vraiment mis à jouer que lors des 10-15 dernières minutes.
Ouais, malheureusement, heureusement, c'est normal, c'est l'expulsion qui a en quelque sorte libéré Marseille. Il y avait beaucoup plus d'espace, Valbuena et Benarfa sont rentrés. Ça a permis de bien écarter le jeu et tirer cette défense bordelaise. Et donc, du fait que Bordeaux ait un joueur en moins, ça a été beaucoup plus facile pour se créer des occasions, pour être plus dangereux, plus offensif. Mais en première mi-temps, à 11 contre 11, Marseille a un peu donné son cul et n'est pas rentré dans le match comme un vrai outsider, comme j'aurais peut-être aimé voir l'OM rentrer. On l'a vu à Marseille qui est rentré assez timidement, un seul tir en 45 minutes. Et ce tir, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tir exactement, c'est Brandao qui tire au 25 mètres après une percée latérale. Donc, c'est-à-dire s'il avance bien de 10 mètres et donc la balle part même près du poteau de corner. Donc, c'est-à-dire l'action, aucune fois, même pas pendant quelques secondes, l'OM a été dangereux en première mi-temps. Et c'était vraiment nul à chier cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, avant l'expulsion, on a pu voir un petit changement de mentalité. Je pense que Deschamps à la mi-temps a dit à ses joueurs de se porter un peu plus vers l'avant, de se placer un peu plus haut sur le terrain, de presser un peu plus les Bordelais. Et on va dire que cette expulsion, elle a un peu arrangé les affaires de Deschamps, parce que au départ, je pense qu'il a très mal négocié le match en donnant ses consignes ultra défensives. Et en plus, vous savez que moi, quand je peux critiquer les équipes qui jouent à 11 derrière quand ils se déplacent chez un gros, et ben là, j'aime pas quand je vois mon équipe préférée jouer et qu'il se déplace chez le tenant du titre, chez la meilleure équipe de Ligue 1, donner un peu son cul et pas tenter, pas jouer et pas produire du tout.
Ouais, puis moi, je suis assez globalement d'accord avec toi, Roméo. C'est des deux côtés, ce match était carrément une purge où il n'y a eu aucun rythme. Et c'est-à-dire que même dans les 20 dernières minutes, c'était comme très laborieux du côté de l'OM. Et au final, on se rendait compte que, alors, avant le but de Chamakh, pendant toute la première période, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'être devant un Nancy Metz avec deux défenses compactes. Alors, les admirateurs du jeu à la Gucidine, qui est encore là, c'était pas du niveau de Gucidine, mais les admirateurs du jeu à la Correa, disons.
La Fabio Capello.
Voilà, ils étaient quand même très heureux de voir ça, parce que Bordeaux a très bien joué le coup en défense, ça c'est clair. Même si en face, l'OM était quand même assez faible. Mais même après le but de Chamakh, enfin de Mandanda, on sentait une équipe de l'OM qui n'avait pas forcément les moyens d'attaquer. Et ensuite, il y a eu l'expulsion, le but de Chéroux. Quelques situations pour l'OM avec la frappe de Valbuena, la frappe de Lucho que Ramé enlève bien. Mais sinon, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de jeu à proprement parler. C'était très laborieux. L'OM essayait tant bien que mal au début de passer dans l'axe, et au bout de 80 minutes, ils ont compris que bon, l'axe était peut-être un peu difficile puisque Siani était quand même dans un grand jour. Donc au final, ils sont passés sur les côtés, et puis les centres étaient difficiles, minables presque. Abriel en arrière droit, c'était n'importe quoi. Au final, Marseille a fini le match avec Abriel arrière droit et Bocali arrière gauche. Bocali qui bizarrement, même s'il rentrait sur son pied droit, n'arrivait pas à mettre un centre dans la surface. C'est-à-dire que tous ces centres, ils étaient à l'entrée de la surface. C'est-à-dire qu'au final, ils allaient sur le défenseur bordelais qui couvrait derrière, qui couvrait la retombée du ballon. Sauf que là, c'était pas la retombée. Enfin, il couvrait le deuxième ballon. Là, c'était pas le deuxième ballon qu'il avait. C'était le premier. Il n'y avait aucun centre qui était dans la surface pour Bocali. Valbuena, on sait qu'il ne s'est pas centré, donc au final, à chaque fois, ça finissait dans les buts, dans les tribunes, ou alors, quand il avait un peu de chance, c'était contré au premier poteau, donc ça faisait corner, et les corners, à chaque fois, il les tirait mal, parce qu'il n'arrivait pas à lever le ballon, et ça arrivait sur le genou du premier défenseur. Donc, il n'y a que Abriel qui a réussi un peu ses centres, mais dans la surface, il n'y avait personne. Brandao n'a aucun moment réussi à prendre le ballon, et au final, il n'y avait rien. Il y a juste sur le but des déviations, la défense bordelaise qui est un peu prise de panique, oublie complètement Chérou. Le ballon, c'est même un bordelais, je crois, qu'il fait la passe à...
Non, c'est Brandao.
C'est Brandao. Enfin, en tout cas, voilà, c'était un cafouillage. Et au final, le seul beau geste du match, c'est l'enchaînement de Chérou. Mais sinon, il n'y avait absolument rien. C'était n'importe quoi. Au final, c'était même pas du beau football, c'était même pas du football un peu n'importe quoi comme on avait vu Lyon-Marseille où il y avait quand même des passes précises, il y avait quand même des buts tout simplement. Là, c'était du football n'importe quoi qui arrivait à du n'importe quoi tout simplement. Donc c'était une purge, tactiquement au début Blanc et Deschamps étaient bien en place. Même si on peut regretter que Blanc n'ait peut-être pas joué le coup à fond et que Deschamps n'ait pas mis forcément toutes ses forces pour que Marseille gagne. Et après, d'un côté, tu avais Blanc qui jetait n'importe quel défenseur pour qu'il aille défendre, et de l'autre côté, c'était Deschamps qui jetait n'importe quel attaquant pour qu'il défende, pour qu'il attaque. Donc au final, ça donnait. N'importe quoi, tout simplement. Vas-y, Yac, je te laisse la parole.
Ouais. Ah bon, beaucoup de choses à dire. Vous êtes globalement pas d'accord avec... moi, le match, comment j'ai ressenti, en gros... Alors, Deschamps savait que physiquement, le Bordeaux allait pas tenir 90 minutes et que... pardon. Ils n'allaient pas tenir 90 minutes au rythme que le match allait imposer. Donc moi, j'ai le sentiment que dans un premier temps, ils voulaient bien sécuriser derrière, laisser venir un peu Bordeaux et profiter un peu de leur manque de rythme, de leur manque de jus sur la fin pour les contrer.
Ouais, c'est vrai que la deuxième mi-temps que sur la fin de match. Même analyse que toi sur le début, enfin sur la tactique en fait, en gros, empilée par Deschamps. Je pense que c'était vraiment prémédité, comme tu dis.
Ah ouais, ah, j'en suis sûr et certain. Et à côté de ça, alors que tu avais Bordeaux qui s'est dit la même chose, ils se sont dit on est en manque de rythme, donc on va y aller, on va jouer notre jeu, mais on va quand même y aller un peu avec le frein à main en quelque sorte, pas y aller à fond parce que ça risque d'être difficile sur la fin. Voilà. L'un dans l'autre, bah, ça a fait que bah, d'une part, il n'y avait pas de rythme parce que Bordeaux avait le ballon tout le temps, parce que Marseille jouait à 10 derrière et parce que les joueurs qui sont capables de faire la différence dans ce genre de match, j'ai parlé depuis le début de la saison un tas de fois des difficultés, même des limites Bordeaux à faire la différence dans ce genre de configuration qu'ont des défenses regroupées, donc je vais pas y revenir. Mais bon, il y a quand même eu quelques décalages sur les ailes. Chalmé qui a eu 2-3 bonnes positions, il a raté absolument tous ses centres. Trémoulinas qui n'était pas en jambes. Gouffran a rien fait. Voilà. Ça a fait que bah, finalement c'était un C'était très très triste. Mais à côté de ça, quand même, moi j'ai plus pas aimé Marseille, parce que bon, ok, ils défendaient pas, ok, ils défendaient regroupés, mais à aucun moment ils ont sorti les ballons, ils ont essayé de même pas de prendre des risques, mais juste de remonter un petit peu le bloc pour se donner de l'air et essayer de se créer des occasions. Ça, ils l'ont même pas fait une fois. Donc c'est plus Marseille qui me déçoit sur ce coup-là, même si bon, bien sûr, les deux équipes n'étaient pas bonnes.
À la décharge, quand même, entre guillemets, de l'intégralité de l'équipe hier marseillaise, c'est vrai que tu avais les grosses individualités qui d'habitude sont là, enfin qui d'habitude devraient être là, comme Lucho, qui ont été totalement hors du coup, quoi. Lucho, même si on est d'accord, Roméo, sur une ou deux balles, on sent que le gars a le truc, tu vois, il va en une touche t'écarter le jeu sur un côté, il va te passer le ballon à Bonnard qui a bien démarqué et tout ça, mais on l'a vu bien trop peu souvent pour que justement Marseille puisse tenter de prendre le jeu à leur compte au milieu de terrain. Et en l'occurrence, c'était pas possible dans de telles conditions où il y avait presque que Chirou qui était visible au milieu de terrain marseillais, quoi. Si tant est qu'il arrivait à sortir la tête hors de l'eau. Et sur le manque de rythme, je voulais juste revenir là-dessus, Yac, t'as tout à fait raison, surtout pour Bordeaux, compte tenu que Bordeaux, depuis Noël, n'avait pas refait un vrai match, puisque vous aviez fait vraiment tourner, hein, il me semble, durant les deux tours de coupe, enfin les deux matchs de coupe, Coupe de France et Coupe de la Ligue, qui sont enchaînés.
Ouais, et donc c'est un seul match de coupe qui a eu le match reporté contre Le Mans.
Ah oui, c'est vrai, Le Mans. Ouais.
Un match de coupe contre Rodez, plus bon, le fait qu'il se déplace au Mans, qu'il reste deux jours là-bas, ça fait deux jours d'entraînement en moins. Voilà, ça, il le savait. D'ailleurs, dans tous les avant-matchs qu'on a pu entendre, il le disait. Donc, il le savait et ils ont joué avec ça. Donc, voilà, moi, je suis absolument convaincu qu'ils n'ont pas mis tout ce qu'ils pouvaient de peur de se retrouver complètement cramé à la fin, ce qui a d'ailleurs été le cas quand même. Mais ouais, pour revenir à Lucho, ce que tu disais sur Lucho, moi, j'ai l'impression, sur le match d'hier en tout cas, hein, je sais pas, les impressions quand le ballon arrive à ses pieds, il est brûlant. Bah, je veux dire, il jouait super pas. Là, le rôle de Lucho, c'est pas forcément de jouer à une touche de balle à chaque fois. Bah, je sais pas, il peut prendre le ballon, le garder un petit peu le temps que le bloc remonte pour soulager son équipe.
Bah, je suis pas forcément d'accord avec toi. Il est quand même dans une position où justement, c'est un peu le but d'avoir le bon coup d'œil et avoir le direct savoir où faut envoyer le ballon pour essayer de construire un peu le jeu.
Quand
Marseille était dans une attitude de contrat, enfin si tant est qu'il ait réussi à faire quelques contre-attaques, quoi. Marseille était vraiment dans cette attitude-là. Il y a...
Ouais, mais voilà, lui, il est censé garder le ballon, soulager un peu son équipe, que son équipe qui souffre. Bah, s'ils arrivent à remonter de 20 mètres, il les soulage pendant une minute, deux minutes. Alors que là, t'as l'impression, à chaque fois, il essayait de jouer vite, trop vite d'ailleurs, parce qu'il n'a pas réussi tout ce qu'il a fait, loin de là. Et voilà. Une touche de balle pour jouer des 2 contre 5 ou 6, je suis pas sûr que ce soit vraiment d'un grand intérêt, quoi.
Moi, ouais, je suis à peu près d'accord avec ça. C'est que quand on compare avec le match contre Saint-Etienne, on avait vraiment un 4-3-3 avec 3 milieux de terrain où on avait un vrai 6 et Chérou et Lucho assez haut quand même. Là, on avait plus l'impression, dans la tactique de Deschamps, que Chérou devait vraiment redescendre un peu plus bas, presque au niveau de Cissé, et on retrouvait Lucho limite seul en meneur de jeu au milieu de terrain. Et on sait très bien qu'à ce poste-là, Lucho n'y arrive pas. À ce poste-là, Lucho, il est obligé à chaque fois de regarder derrière lui. On a l'impression que c'est naturel chez lui, et il est trop près du but. Donc il a presque l'impression de jouer en pivot. Donc au final, à chaque fois qu'il avait le ballon, il donnait le ballon très vite à un mec soit derrière lui, soit qui débordait sur l'aile. Et au final, comme le milieu de terrain de Bordeaux était bien en place, la plupart de ses passes étaient soit elles étaient vraiment ratées, donc au final on se retrouvait avec une interception, soit elle était bonne, mais on avait quand même une interception parce que les Bordelais étaient bien en place devant. Et Lucho, hier, a raté complètement son match. Il a raté complètement son match. Et à aucun moment, il a pris les responsabilités du jeu. Il jouait, comme tu le disais, toujours en une touche de balle, toujours en déviation. mais avec des joueurs autour de lui qui étaient dans la configuration de Deschamps, surtout en première période et avant l'expulsion, c'est-à-dire de rester quand même assez bas. Et donc, à chaque fois, c'était des passes en retrait, mais avec derrière des joueurs qui étaient arrêtés. Et qui avaient, et donc, il ne créait rien. Et c'est-à-dire qu'il a fait aucune passe en profondeur. À un moment, il a juste un peu débordé sur la gauche pour centrer, ça a été raté, et c'est tout. Donc, au final, c'était pauvre. Le jeu de Lucho était pauvre à l'image du jeu de l'OM. Et même pendant la période faste de l'OM, bah, Lucho n'était pas présent.
Moi, j'ai l'impression que, Faustine dire que c'est un meneur de jeu, mais le mec, dès qu'il a le ballon de haut but, il met alors une éternité pour se retourner. Alors, ok, il a une bonne qualité de passe, il est assez élégant, tout ça, bah, mais ça, il n'a pas les caractéristiques d'un meneur de jeu.
Je mettrais ça sur le dos, justement, le manque, on va dire, de vivacité, je mettrais ça surtout sur le dos de son manque de préparation physique d'avant-saison, et du fait qu'il l'a totalement raté à cause de sa blessure, notamment la clavicule, parce que même, je suis pas un grand fervent supporter et un grand fervent admirateur du FC Porto, mais les quelques matchs que j'avais vus de Porto lorsqu'il jouait, ça n'a jamais été un joueur aussi rapide que Messi ou Cristiano Ronaldo, on est d'accord, mais il était quand même, il avait un coup de rein un peu supérieur à celui qu'il a là, il avait une capacité justement, comme tu le dis, à se retourner autre et plus intéressante. C'est vrai que là, il est vraiment, vraiment lent, et c'est vraiment son péché actuellement, parce que lorsqu'il met du temps à se contrôler, t'as un voire deux défenseurs qui viennent directement sur lui, et ça complique énormément les choses. Et juste pour finir sur son cas, c'est vrai que, comme tu disais, le manque de solutions hier ne l'a pas aidé, justement, comme il ne jouait que presque en une touche ou en déviation. Si en plus, t'as pas de solution, c'est évident que ta passe en une touche ne va pas arriver au destinataire désiré. Ouais, Hugo.
Ouais, non, mais là, je suis d'accord que à Porto, quand il jouait à son poste d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en milieu relayeur, surtout à droite, il avait ce coup de rein. Mais il a su quand même, parce que, d'accord, la préparation physique, elle a été tronquée, ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais on prend le match de Saint-Etienne, enfin, en tout cas, moi, je le prends parce que pour moi, pour Lucho, par rapport à Lucho, c'est un match référence, quoi qu'on en dise. Moi je l'ai quand même trouvé très bon contre Saint-Etienne, par rapport en tout cas à ce qu'il nous avait montré avant. Et il avait quand même su adapter son jeu. Il avait quand même su adapter son jeu justement en une touche de balle, parce qu'il jouait à son poste. Donc il se sentait bien et il était dans son élément. Là, il n'était pas du tout dans son élément. Donc, il jouait, soit il arrivait à adapter son... Il continuait sur la lancée de Saint-Etienne, mais ce jeu-là, à ce poste-là, ne marche pas. Soit il essayait d'adapter son jeu par rapport à son poste qui était de meneur de jeu. Et donc, il n'était pas prêt et c'était pas ce qu'il avait entrepris à Porto. Donc, au final, il jouait complètement contre nature. Soit en jouant comme il jouait à Saint-Etienne, mais pas à son poste, soit en adaptant son jeu par rapport à son poste, mais c'était contre-productif, puisqu'il n'est pas habitué à ça, c'est-à-dire se retourner et mettre un coup de rein, parce que quand tu es assez haut sur le terrain, mettre un coup de rein, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'en face, tu as une défense qui est beaucoup plus regroupée. Tu as le premier milieu défensif, et en plus, tu as les deux défenseurs centraux. Donc, c'est à ce niveau-là du terrain, c'est impossible, à moins d'avoir la vivacité d'un Niang, ou comme tu le disais, bon, alors, Cristiano Ronaldo et Messi, bon, c'est quand même des exemples assez relevés, mais d'avoir la vivacité au moins d'un Niang et d'un attaquant pour pouvoir créer la différence à ce poste-là.
Ok, on est d'accord là-dessus. Je pense qu'au niveau des réactions sur Lucho, on a fait à peu près le tour. On va finir justement ce débat un peu sur Bordeaux-Marseille par une petite analyse. Ce matin, en réfléchissant un petit peu au sujet qu'on pourrait faire ce soir, je pensais, c'est effectivement vrai que Bordeaux ne fait jamais de très très gros matchs et ne donne jamais une grosse impression lors justement de confrontations importantes. Alors, j'ai dans la tête Bordeaux-Marseille, le match... Marseille-Bordeaux, match aller de cette saison, le
retour. Même si le match allait, il n'y avait pas eu beaucoup de buts non plus, mais le jeu était peut-être plus intéressant. J'ai dans la tête quand même les oppositions avec Lyon. Bon, je mets celle avec Paris, puisque pour moi, Paris ne fait pas partie, il est loin derrière plutôt des gros clubs de Ligue 1. Je me rappelle la saison dernière contre Marseille, ça a été également deux matchs très très moyens. Contre Lyon, ça avait été un match, ça avait été une victoire 1-0 sur le fil. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, Yac, mais bon, tu vas me dire, une victoire 1-0 suffit largement, ou comme hier, un match nul peut vous satisfaire. Mais c'est vrai que Bordeaux ne dégage pas cette impression de force contre les grosses équipes du championnat, bizarrement, compte tenu de ce qu'on a vu qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Tu ne trouves pas que c'est un peu paradoxal?
C'est-à-dire que c'est comme je disais tout à l'heure, et comme j'en ai parlé un paquet de fois, pas que contre les grosses équipes d'ailleurs. Moi, tu as pris les exemples. Là, les exemples qui me viennent en tête tout de suite, c'est donc ce match de Marseille et de Lyon. Bah, bon, moi, j'ai vraiment, c'est plus qu'un sentiment, hein, c'est un constat. Quand ils jouent contre des défenses regroupées, ils ont du mal. Alors, ils ont du mal parce qu'ils aiment bien. Faire tourner un petit peu derrière, construire bien lentement leur jeu. Alors, quand les équipes entament le pressing un peu bas, ça fait qu'ils reculent. Et quand ils reculent, Bordeaux a du mal parce qu'ils n'ont pas des joueurs forcément capables, comme peut l'avoir Lille, par exemple, avec Gervinho ou Hazard, capables de faire des différences tout seuls sur les ailes, créer des décalages qui peuvent... amener des buts d'action, quoi. Ou comme on a pu le voir sur le but contre Lyon, où Jussier dribble trois joueurs et voilà, ça crée un gros décalage sur le côté gauche qui amène le but. Moi, c'est plus cette impression-là. Après, on a vu contre des équipes qui jouaient un petit peu plus, un petit peu plus haut, qui entamaient le pressing un peu plus haut, contre la Juve, par exemple, contre le Bayern à l'aller. Il y a eu d'autres matchs aussi. Un peu comparable dans l'intensité contre Rennes, par exemple, contre Monaco aussi, où ils avaient un petit peu plus d'espace, ils arrivaient à développer leur jeu, à se créer plus d'occasions. Moi, je suis pas persuadé que ce soit dû au fait que ce soit des gros matchs, c'est plus la configuration du match en elle-même. Mais c'est clair que ils ont du mal quand ils jouent, quand ils mettent du temps à entamer leurs actions. Et ça, ouais, c'est un petit peu leur défaut, quoi. Hugo ?
Ouais, je suis assez d'accord, mais c'est surtout que c'est par rapport au fait que Laurent Blanc aussi adapte son équipe et ses consignes par rapport à l'équipe qui est en face. À Marseille, sans prendre des matchs de Ligue des Champions, parce que Lyon a toujours été bon, Bordeaux a toujours été excellent contre les grosses équipes en Ligue des Champions, donc ça peut aussi nous convaincre que Bordeaux peut être présent dans les gros matchs. Quand on regarde le match à Marseille, c'était surtout que Marseille était là, non pas pour faire le jeu, mais pour faire déjouer Bordeaux. Ils ont tout fait pour empêcher la liaison entre Chamakh et Gourcuff. Donc, en plus, Bordeaux aurait mérité de gagner parce que le but refusé est quand même assez litigieux. Et au final, quand on regarde Marseille-Bordeaux, Bordeaux a beaucoup mieux joué et a beaucoup plus eu la maîtrise du ballon que Marseille. Et pourtant, ils étaient au Vélodrome. Donc, c'est plutôt Marseille qui a tout fait pour empêcher Bordeaux de jouer que Bordeaux qui a mal joué. Quand on regarde le match à Lyon, Lyon a été très mauvais. Bordeaux a fait un match digne des champions, tout simplement. Ils ont été solides, et puis au final, ils marquent le but dans les dernières minutes, et puis ils gagnent. Donc, répondre présent, c'est pas non plus avoir le ballon et gagner 4-0. C'est aussi, faut aussi regarder le résultat et si la fin justifie les moyens. Et la plupart du temps, même si Bordeaux n'a pas été excellent dans le jeu, bah, la plupart du temps, ça finit avec une victoire. Et même contre les grosses équipes, parce qu'ils gagnent à Lyon, en Ligue des Champions, ils ont gagné presque tous leurs matchs. Et contre Marseille, c'était surtout parce que Marseille jouait vraiment pour empêcher Bordeaux de jouer. Donc moi, j'ai pas de souci là-dessus. Bordeaux va gagner le championnat grâce à leur victoire contre les petites équipes. Et les gros outsiders ont perdu le championnat parce qu'ils ont, ils ont pas su battre Bordeaux, tout simplement. Parce qu'au final, Bordeaux, contre les gros outsiders, bah, il n'y a aucune défaite, tout simplement.
Non, mais on est d'accord, on est d'accord, quoi. Mais c'est le constat, c'est par rapport à ce qu'on, quand on a vu la force qu'ils ont pu dégager contre la Juve en Ligue des Champions ou contre encore contre le Bayern, c'était pour ça que j'étais un petit peu étonné que à Bordeaux, certaines fois, on livrait des matchs pas extraordinaires, mais comme tu dis, tu as pris des exemples où même si le score ne reflète pas forcément, Lyon avait été Bordeaux avait été carrément dessus, comme contre Lyon, tu l'as dit. On va passer
d'ailleurs,
oui, pour finir.
D'ailleurs, il y a d'autres exemples par rapport à ce que je disais. Il y a eu d'autres matchs contre des équipes plus faibles. J'ai en tête Saint-Etienne, Auxerre, même. C'était quoi c'était... Enfin, il y a beaucoup d'exemples d'équipes, de matchs où ils jouaient contre des équipes qui jouaient plus ou moins la défense, comme c'était le cas de Marseille ou Lyon récemment, et où ils avaient vraiment du mal. Ils débloquaient la situation sur un but. Quasiment leur seule action, comme ça a pu être le cas hier, alors que dans quasiment tous les matchs où les équipes justement jouaient, prenaient un peu plus de risques. Récemment, il y a l'exemple de Lorient. Bah, là, là, ça allait beaucoup mieux, à la fois au niveau du jeu, des occasions, puis des buts aussi.
Très bien, très bien. On va donc passer maintenant, comme je l'avais dit, à Lille. On va descendre un petit peu au classement. Lille qui jouait contre le PSG. Lille qui s'est imposé, je le rappelle, 3-1. Un effectif donc qui pointe maintenant à la seconde place au classement général de la Ligue 1. 37 points. Bon, vous allez me dire, c'est 7 points encore derrière Bordeaux, hein, qui rappelle en tête avec... avec 44 unités, mais il faut dire que Lille en ce moment c'est vraiment vraiment très impressionnant. Alors pas forcément ce week-end contre le Paris Saint-Germain, quand le PSG, on l'a répété sur Génération Soccer samedi en votre compagnie, a été pathétique. C'est même un euphémisme de dire pathétique. Mais Lille fait quand même 26 buts en 7 matchs, il me semble, consécutifs. Donc c'est du très haut niveau en ce moment, les Lillois. C'était Gag, justement, tu voulais un petit peu réagir par rapport à cette équipe lilloise qui en finit plus d'épaté. On avait lancé un petit débat samedi soir. Est-ce qu'on pense réellement, par exemple Flo qui était là avec nous, ne pensait pas que Lille pourra tenir un tel rythme toute la saison? T'es sur la même longueur d'onde que lui ou tu vois vraiment un effectif armé pour tenir comme ça jusqu'à la fin de la saison et essayer un tant soit peu de rattraper les Bordelais?
Bah d'abord oui, ils sont vraiment extraordinaires en ce moment. Ils sont très très bons dans tous les compartiments du jeu, que ce soit le pressing, l'organisation défensivement, offensivement. C'est, je pense, l'équipe la plus équilibrée, peut-être avec Bordeaux, il y a match. Ils sont vraiment très forts. Après, ce qu'ils peuvent les rattraper, là, ils ont quoi? Ils ont 7 points de retard. Moi, ça me paraît dur quand même. Bon, c'est surtout pour qu'ils les rattrapent, il faut qu'ils leur mettent 7 points, quoi. 8 points. Tu prends, depuis leur série extraordinaire, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure. Ils leur mettent alors c'est depuis la 10e journée, je crois, leur dernière défaite. Enfin, là, il y a eu une défaite entre temps, mais la dernière défaite au Serre, après ils enchaînent, je crois, ça doit faire 9 victoires et une défaite.
On va te sortir ça tout de suite, les statistiques.
Ouais, et dedans il y a une victoire contre Bordeaux, et malgré ça, ils leur reprennent que 5 points. Donc, sachant qu'il y a la victoire... Donc...
Dernière défaite, c'est Montpellier-Lille, exactement.
Voilà.
Montpellier-Lille, bah,
moi, j'avais pris le avant.
Le novembre, ouais.
Donc, c'est, oui, plus c'est vrai que... la dernière défaite.
Ouais. Ça, ouais, ouais, non, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu une défaite, en gros, en fait, qui a coupé un petit peu l'élan. Parce qu'il y avait eu Auxerre, donc la défaite. Il y avait eu, après, Lille avait remporté un match à Grenoble et contre Bordeaux, donc après. Et il y avait eu le match contre Montpellier où ils avaient perdu. Et depuis, ils n'ont plus perdu. Ils ont même fait que des victoires.
Voilà, c'est ça. Alors, sur toute cette série de matchs, où il y a une seule défaite, ils leur remettent que 5 points. sachant qu'ils les battent. Donc, si on sort ce match, ils leur mettent que 2 points. Sachant qu'ils sont vraiment dans une spirale, tu peux pas faire mieux, quoi. Des victoires, ils leur mettent que 5 points. Moi, ça me paraît dur de les voir leur remettre 8 points jusque la fin de la saison. Surtout que, bon, voilà, on a une dynamique plus que positive. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des suspensions, des machins. Moi, ça me paraît pas évident, franchement. Donc, il faudrait un peu un concours de circonstances, que Bordeaux baisse vraiment le pied et que Lille reste sur cette dynamique. Pas simple, pas simple. Moi, je pense pas qu'ils pourront être champions. Loïc, tu voulais dire un petit mot, ouais.
Ouais, je vais enchaîner sur Lille. Tout simplement pour dire que Lille, bon, bien évidemment, je pense pas que ça va durer jusqu'à la fin de saison comme ça, c'est-à-dire bon, les 30 buts en 3 matchs, ça va 2 minutes, mais je pense qu'à un moment donné, ça va se calmer. Mais simplement, je pense qu'ils vont continuer leur bonne série. En tout cas, je l'espère déjà pour l'intérêt du championnat. Je pense que le gros avantage de Lille, c'est quoi ? C'est qu'ils ont des mecs intelligents, tout simplement. Je parle de ça bêtement, quand tu regardes un une interview, ou je ne sais pas, tu vois que des gars comme Balmont, comme Cabaye, comme Mabouba, par exemple, c'est des gars qui ont quelque chose dans la tête. Au contraire que, par exemple, d'Aden Arfa, par exemple, pour citer que lui. Voilà, c'est des gars qui en ont dans la tête, et donc je pense que le foot ne se joue pas que dans les jambes, mais aussi dans la tête. Et ça, c'est leur gros avantage. Maintenant, au-delà de ça, c'est certain que Bordeaux a un effectif beaucoup plus conséquent. Et qui va leur permettre certainement de maintenir le cap et de faire champion, pourquoi pas. Maintenant, moi, j'ai tendance à espérer quand même, malgré que je sois pour l'OM, hein, mais j'ai tendance à espérer quand même que Lille garde ce rythme de croisière, tout simplement pour l'intérêt du championnat, on va dire. Et je pense qu'ils en sont capables. Maintenant, je pense que c'est le problème d'effectifs après. Hein. Il y a moins d'effectifs à Lille qu'à Bordeaux. Donc voilà.
Et effectivement, justement, tu fais bien de parler de l'effectif. C'est ce que nous demande Jojo là sur le forum. Est-ce que Lille possède un banc pour maintenir cet élan exceptionnel sur lequel ils surfent depuis maintenant deux mois et demi. Est-ce qu'il y a un banc conséquent? Ben, faut dire, Hugo, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand tu vois qu'un mec comme Fro arrive à revenir à un niveau assez correct, un mec comme Tulio de Melotto, même si c'est un mec en carton, en cristal, comme tu veux, c'est toujours pour moi une valeur sûre du championnat. Donc en attaque, t'as les Gervinho, t'as alors Ditec, je sais pas comment tu trouves ça après toi, Hugo. Au milieu de terrain, je pense que t'as quand même un sacré milieu de terrain qui peut tourner déjà entre les trois titulaires et au niveau des remplacements. C'est vrai qu'au niveau des remplacements, les trois titulaires sont tellement à un niveau haut que ça va être difficile de le remplacer au cas où il y a un blessé. Et en défense, c'est à peu près pareil. T'en penses quoi, toi, au niveau du banc comme ça, lillois?
Bah, le banc lillois reste quand même de bonne qualité pour prétendre à une place en Ligue des Champions. Maintenant, pour prétendre à un titre, je pense pas. Hein, le banc bordelais est de meilleure qualité. Déjà, il est plus large et il est de meilleure qualité. Alors, pour revenir à Lille plus globalement, on s'attendait, on en parlait avant la trêve, on avait peur que la trêve casse un peu le rythme qu'ils avaient depuis quelques matchs. Ça a l'air de pas trop les affecter, même sans Gervinho, qui est parti à la CAN et qui était quand même le moteur principal de ces dernières semaines à Lille, ils arrivent quand même à gagner. Alors si on voit les buts, on voit clairement que la défense parisienne est très 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 faible. Il y a pas mal de buts qui sont largement évitables pour les Parisiens, mais malgré tout, Lille a quand même très bien négocié cette trêve. Donc, est-ce que ça va continuer? Je l'espère. Ils n'ont pas un calendrier très chargé jusque quand même au 20 février où ils vont quand même aller à Rennes. Entre-temps, ils vont accueillir Lens, donc on verra. Les derbys, c'est toujours quelque chose de particulier. Mais le premier, le premier.
Ce que tu dis, c'est Sochaux, Nice, Boulogne en dehors de Lens, t'as raison.
Ouais, voilà. Et puis après, le premier gros test, après cette trêve, ce sera le déplacement à Rennes le 20 février, où là, on verra vraiment si Lille a le potentiel pour en tout cas accrocher une place en Ligue des Champions. Le titre, ça semble plié. Bordeaux est beaucoup trop loin, Bordeaux est meilleur. Même si sur un match Lille pourrait faire la différence, on l'a vu au match aller où le LOSC a gagné, hein, mais plus globalement, je pense que Bordeaux est intouchable. Hein. Donc les Lillois doivent pas avoir trop d'espoir. Par contre, oui, pour la Ligue des Champions, c'est largement faisable. Marseille a quand même un match en moins, donc s'ils gagnent contre Sochaux, ils reviendront à un point des Lillois. Donc, ils resteront deuxième malgré ils restent auront deuxième, même si Marseille gagne. Donc, à eux, ils ont les clés en main. C'est-à-dire que c'est eux, la balle est dans leur camp, c'est à eux de bien négocier cette fin de saison. Maintenant,
on est là.
Comme on l'a dit, là, c'est léger, mais après, ils vont avoir un enchaînement de gros matchs avec Bordeaux, Marseille, Lyon, et là, on verra si Lille a réellement le potentiel pour aller au bout, en tout cas pour la place de Ligue des Champions. Mais je ne m'inquiète pas trop. Leur banc reste suffisant pour cet objectif. Hein. En attaque, il y a même Aubameyang qui peut dépanner sur les ailes en l'absence de Gervinho. Il y a Aubragnac. Au milieu de terrain, il y a même Chedjou qui peut jouer milieu défensif. Donc, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Hein. Donc, je vois quand même Lille bien parti pour faire chier, en tout cas, les plus gros prétendants à la Ligue des Champions.
Juste, pour finir sur la fin de ton analyse, effectivement, on va voir vraiment à la fin de championnat, puisqu'ils vont enchaîner les gros matchs, ils vont enchaîner à la suite des Lyon, des Monaco à la fin de championnat. J'ai le calendrier sous les yeux. Il y aura Bordeaux-Lille, évidemment, c'est le 20 mars pour l'instant qui est programmé. Ne serait-ce que la dernière, enfin, les derniers matchs de Lille, hein, les trois derniers matchs, c'est Toulouse là-bas. C'est Marseille à domicile et c'est Lorient à l'extérieur. Donc, ça reste un calendrier compliqué. Et effectivement, les Lillois auront en plus une difficulté qui va, entre guillemets, s'accroître durant les semaines qui vont avancer là, jusqu'à la fin du championnat. C'est celle physique, parce que vous savez, on parle énormément donc, du beau jeu de Lille et tout ça, mais on oublie de mentionner souvent qu'il faut un physique extraordinaire pour pouvoir proposer des solutions à tout moment dans le match, pour avoir une disponibilité, une mobilité sur le terrain très très intéressante. Et j'ai connu ça avec le Milan dans les années 90, le Milan d'Arrigo Sacchi, dont on vante encore aujourd'hui les mérites. Et c'est vrai que justement cet entraîneur italien-là avait été lâché, c'est comme ça d'ailleurs qu'il était parti de Milan en 91, si mes souvenirs sont bons. Parce que justement, ces joueurs en avaient marre du physique qu'ils faisaient, mais en même temps, ils produisaient grâce à ça le jeu le plus beau d'Europe à l'époque. C'était vraiment extraordinaire. Et Lille, à degré moindre, joue un football très, très, très offensif, mais qui demande aussi un physique optimal. Et ce physique, au fur et à mesure de la saison, va sûrement se dégrader, et ça ne risque pas d'aller à leur d'être à leur avantage justement si les Lillois sont de plus en plus fatigués et leur jeu si magnifique qu'ils déploient depuis une quinzaine de matchs risque d'en prendre un sacré coup. Roméo, justement, Jojo nous demandait pour finir sur les Lillois, est-ce que tu aurais une petite stat qui traînerait par là sur cette équipe nordiste?
Lille, sachez, savez-vous, messieurs, à quand remonte la dernière défaite lilloise? Ça fait longtemps qu'on les a pas vus.
Bah, on l'a dit tout à l'heure, c'était Montpellier.
C'était à Montpellier.
C'est à Montpellier là-bas. Le 21 novembre.
Oh là 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 là. Le statisticien carton, là.
Eh bien, Jojo est content, il a sorti sa stat.
Bon, je me tais puisque vous êtes décidé à ne pas me laisser parler.
En même temps, c'est bon. Bordeaux, c'est pire parce que.
Attendez. Donc, il a sa stat. Il faut lui laisser s'exprimer. Il a sa stat.
Allez, Roméo, finis ton.
S'il vous plaît, c'est pas parler, merci. Non, mais Lille, depuis, c'est 6 matchs, 6 victoires, 22 buts, donc une moyenne de 3,7 buts par match depuis 6 matchs.
Excellent, Roméo. Là, on sent qu'il a sorti la calculette, là. Parce que je vous assure, il n'est pas capable de faire une division euclidienne à main.
Oh, ouais, quand même, 22 divisé par 6.
Non, arrête, Roméo.
Voyons.
Messieurs, on va passer, et le temps file, hein, ça va faire bientôt une heure qu'on est ensemble, et nous on ne met pas de publicité, on ne se rince pas aux frais de ces organes publicitaires qui amassent des millions. Nous on fait tout ça d'une seule traite, on va passer un petit coup sur l'Olympique Lyonnais, et c'est surtout toi, Yac, qui voulait en dire quelques mots. C'est vrai que entre guillemets, pousser un petit coup de gueule à la place de Correa, peut-être, compte tenu du match que Lyon a fait cette semaine, enfin ce week-end. Je rappelle, ils ont gagné 2-0 à Nancy, mais totalement contre le cours du jeu, justement, sur deux cafouillages extraordinaires. Là, c'était un peu le week-end. Et c'est vrai que Lyon n'a pas rassuré, bien que cette semaine, ils se soient qualifiés en Coupe de la Ligue, je le rappelle, à domicile contre le FC Metz, et que là, ils aient gagné en fin de semaine contre Nancy.
Ouais, enfin, non seulement ils gagnent contre le cours du jeu, mais en plus, il y a un but refusé, franchement, limite, sur un hors-jeu, enfin, pour moi, il y a but. Il y a un pénalty, pareil, franchement, pour moi, il y a faute, pareil. Donc voilà, après, toujours pas de milieu de terrain toujours super faible, défense un peu limite aussi. Moi, j'ai pas vu de différence entre le Lyon qui inquiétait tout le monde en décembre et le Lyon qu'on a vu cette semaine, même en coupe, c'était pas. Là, ce qui gagne 3-0, c'est Metz, c'est ça. Voilà, c'était pas révolutionnaire non plus. Ils parlaient de nouvel élan parce qu'ils avaient fait un stage Tunisie, si je me trompe pas. Que soi-disant ils s'étaient remis en question, que le groupe s'était formé. Enfin, là, a priori, c'est pas le cas, quoi. Là, ils gagnent sur un malentendu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Très très inquiet pour eux. Voilà. Moi, je vois pas franchement. Ce qu'ils ont pour finir sur le podium, surtout par rapport à Lille et voire Marseille, très inquiet pour eux.
Ouais, et là, ça serait vraiment une catastrophe. On l'avait dit l'an passé, que on avait vu d'ailleurs Jean-Michel Aulas un petit peu réduire au fur et à mesure de la saison ses objectifs et s'arrêter au stade Ligue des Champions. Quoi, il avait dit il faut absolument qu'on se qualifie en Ligue des Champions, et effectivement, c'est notamment par rapport aux finances du club, c'était ultra important de se qualifier en Ligue des Champions. Et là, alors, si tu nous dis déjà que Lyon ne se qualifiera pas, ça risque de diminuer un sacré coup l'aura que possède en France par rapport justement à son budget qui caracole en tête justement des budgets de Ligue 1, si je peux dire. Bon, voilà. Merci messieurs pour.
Non, mais ouais, mais.
Juste. Oui, Yac.
Ouais, ouais. Non, mais c'est clair que j'ai même pas l'idée des conséquences. Ce serait pire que dramatique s'ils ne se qualifient pas en Ligue des Champions. Et déjà, leur ambition de nouveau stade qui a l'air super mal embarqué, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce sera encore pire. Tous les investissements qu'ils ont fait, ce serait un pas en arrière terrible. Et moi, franchement, je vois pas comment ils peuvent finir sur le podium. Là, j'ai le classement sous les yeux. Bah, pour moi, Lille est au-dessus. Marseille est au-dessus. Rennes, Monaco sont pas loin. C'est pas dit qu'ils peuvent pas passer devant. Puis voilà, dans le jeu, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de cohérence. Un pressing franchement douteux. Il y a des espaces partout entre les lignes. Voilà, quoi. Puis tu sens ni, comme disait Chris après le match Bordeaux, tu sens ni un esprit de révolte, personne parle sur le terrain. C'est vraiment l'archétype de l'équipe qui tombe, quoi.
Ouais, et puis le tout début de saison était l'arbre qui cachait la forêt. La saison dernière, on s'y attendait, on pensait qu'ils allaient finalement pas se qualifier. Heureusement que le PSG se fie complètement en fin de saison. Mais là, cette saison, ça semble très très mal barré. Et comme tu l'as dit, si on prend ne serait-ce qu'en compte les trois premiers, a priori, parce que je pense que Marseille va gagner contre Sochaux, mais encore. Si tu prends les trois premiers, Bordeaux, Lille, Marseille, ils sont largement au-dessus de Lyon. Donc au final, c'est, je pense que c'est terminé pour l'OL. Ils vont prendre, allez, pourquoi pas, oui, une quatrième place de l'Europa League. Mais au niveau sportif, c'est clair. Mais surtout au niveau financier, c'est une véritable catastrophe pour Lyon. Ils ont dépensé beaucoup trop. C'est des transferts qui sont pas forcément utiles. On voit avec Sissoko ou 15 millions, bah, c'est 10 millions foutus en l'air. Et là, Lovren, alors Lovren, je connais pas le nombre de mecs qui ont dû le voir en France, qui ont dû le voir jouer. On va prendre le nombre de supporters du Dynamo Zagreb. Bon, 4, 4, 5, pourquoi pas, allez. Oui, bon, une petite famille, mais c'est tout. Voilà, donc Lovren, apparemment, ça a l'air d'être un grand joueur. Maintenant, le Dynamo Zagreb, je me souviens juste que la nouvelle star du Dynamo Zagreb, c'était le Josip Tadic, le bel attaquant des Barcelones. Et on a vu. Heureusement, il ne nous a pas coûté 10 millions. Mais voilà, là, 10 millions pour un défenseur, certes, il est jeune, il a 20 ans, donc il doit avoir une marge de progression assez importante. Mais 10 millions pour un défenseur qui a joué que une saison et demie complète avec un club, le Dynamo Zagreb, qui est très loin d'être sur le premier plan et même sur le deuxième plan sur la scène européenne, je comprends pas vraiment. Et c'est pas la filière Bernard Lacombe au Brésil. Avant, quand Lacombe allait chercher un défenseur, alors on prend pas le, on va pas prendre l'exemple de Kleber Anderson, hein, mais il y a 4-5 ans, quand il allait chercher un défenseur au Brésil,
à Chris, ouais.
Voilà, bon, tu le faisais Cassapa, Chris, tu lui faisais quand même un minimum confiance. Là, c'est un Croate, donc Bernard Lacombe, ça n'a pas l'air d'être son truc, les Croates. Il débarque en étant payé, en étant acheté 10 millions. C'est beaucoup.
Pour... Ouais, c'est un vrai pari.
Ah ouais, ouais, c'est
un vrai pari, c'est un vrai risque.
Bah, ça s'avère a priori pas grand chose, Lovren. Alors, je sais pas, je suis pas croate, donc je pourrais pas dire. J'ai dû voir un match de lui dans ma vie où je zappais sans faire exprès sur W9 et sur les matchs de l'Europa League dans des stades vides, mais c'est tout. Donc, franchement, je suis personnellement complètement dans le doute par rapport à ça, par rapport à lui. Et alors, c'est sûr que quand on voit la défense actuelle, Chris Boumsong ou Chris Bodmer, bah à la limite, il peut que faire mieux que cette charnière centrale à l'heure actuelle, hein, mais bon,
on est d'accord. À titre de comparaison, 10 millions, c'est à peu près le prix d'un Thiago Silva quand il est arrivé en janvier dernier au Milan AC, donc c'est quand même, et lui qui était déjà un petit peu plus confirmé en Europe. Au Brésil, il avait été élu déjà plusieurs fois meilleur joueur de la zone Amérique du Sud. Il avait été déjà sélectionné une ou deux fois en équipe du Brésil. Donc, pour dire un petit peu à titre de comparaison dans le même style de joueur, assez jeune. Le salaire, si vous n'avez pas écouté les chiffres, apparemment, ça serait 130 000 euros par mois que percevrait l'ancien joueur donc du Dinamo Zagreb. Voilà, bah, de toute façon, je pense que honnêtement, comme vous l'avez dit, c'est un risque, mais je pense que c'était un risque presque indispensable, bien que ça soit difficile de parler de risque indispensable, pour les Lyonnais, compte tenu de la faiblesse de la faiblesse affligeante de la défense actuellement à l'Olympique Lyonnais. Bon, on verra bien le vrai. Oui, il y avait Chris qui voulait nous lire un petit peu des réactions sur le forum, justement, ça bouge pas mal par rapport à Lyon, ça réagit pas mal, et justement, peut-être par rapport à Lyon, à Levren, peut-être.
Oui, il y a un membre aujourd'hui qui est très actif, notre ami Jojo, qui pose, qui n'a pas lu dans mes pensées, mais qui se pose la même question que moi. Finalement, quand même, tu viens de le dire, 10 millions d'euros pour ce joueur-là. On sait qu'il était capé deux fois avec les Croates, il a 20 ans, c'est pas le plus précoce non plus, même si c'est vrai qu'il compte pas mal de sélections internationales dans les équipes de juniors. Enfin, on sait ce que ça vaut. C'est un joueur qui est très polyvalent, c'est clair. Maintenant, on a vu que c'était un vrai pari sur l'avenir, mais 10 millions millions d'euros, est-ce que là, on n'est pas encore dans... Est-ce que c'est une question un peu bateau, mais je se pose la même question, et elle a le mérite d'être posée. Si le problème lyonnais persiste, si sur le long terme, Lyon n'est plus la première équipe ou l'une des deux premières équipes du championnat de France, comment vont-ils financièrement pouvoir gérer toutes ces dépenses de
Ah
Dream,
oui,
de Dream,
les
de...
sur...
Est-ce que pour le moment Lyon ne voit pas, comme on dit, plus gros que son ventre, quoi? Est-ce que Lyon n'a pas les yeux plus gros que le ventre actuellement?
les surpaiements des joueurs, ah oui, ça va les changer parce que là, ça n'existera plus du côté de Lyon. Faut dire, à la décharge du jeune Lovren, on est déjà en train d'enfoncer, il a été donc sélectionné par Bilic en équipe nationale 1. Et il faut dire qu'en matière de défenseur, ça a une limite. Il connaissait quand même, il connaît un petit peu le registre. Donc bon, et apparemment, il avait fait quelques déclarations. Je les ai pas lues, mais j'en ai entendu parler, comme quoi que c'était vraiment un très très grand espoir du football croate. Mais c'est vrai que comme tu as dit, Hugo, la dernière fois qu'on a annoncé un espoir du football croate qui arrivait du Dynamo Zagreb, on a vu ce qu'il a lorsqu'il est allé à Grenoble, ce qu'il a fait. Donc bon, est-ce que Flo nous a rejoint pour cette fin d'émission?
Tout à fait, bonjour à tous, enfin bonsoir, pardon.
Après son jour, Martin Luther King,
Non, mais c'est pas
Martin
fini, mais je viens exprès pour vous, comme ça.
Oh, c'est gentil.
En coup de vent,
Exprès
en
pour
coup de
moi,
vent, voilà.
Ça donnait quoi ce match-là? J'ai vu, il y avait les Hawks contre. Ouais, il y a Oklahoma contre Atlanta, là, c'est chaud, là. Il y a 2 points d'avance pour Oklahoma, mais je suis à fond dessus, là.
On te fait confiance pour ça. On te fait confiance pour ça. On passe maintenant. Donc, on a parlé un petit peu de Lyon. On avait parlé beaucoup du Paris Saint-Germain. À moins que tu veuilles tirer encore une fois un coup de gueule là-dessus, Flo, ce soir. Mais je pense que tu avais déjà bien assaisonné les Parisiens
Ouais,
samedi soir. Donc.
je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais ça paraît catastrophique et que ça ne risque pas d'évoluer dans le bon sens, vu les nouvelles qui arrivent aujourd'hui par
Il y
rapport au
avait peut-être un
mercato.
truc. Ouais, il y avait. Bah, juste. Bah, tiens, on va parler d'abord Mercato, puis après, on parlera justement des supporters. C'était Yac qui voulait revenir un petit peu sur ce qui se passait, ce qui s'est passé justement à Lille samedi soir.
Pas de soucis.
Bah, niveau Mercato, il y a eu quoi de nouveau
Je sais que tu veux parler du PSG.
Non, de l'AS Saint-Etienne.
Non, parce que bah justement, il n'y a rien. On essaye de virer des joueurs. Bah là, on vient de le faire avec Loris Arnaud qui vient de signer à Clermont. C'est pas super emballant. On veut virer Griezmann et même Roten parce qu'il est revenu à Paris. Bon, même si on ne paye pas son salaire intégralement, il est quand même revenu à nos frais. Donc voilà, on essaye de virer des joueurs. Mais bon, comme on n'y arrivera pas, bah, résultat des courses, on ne prendra personne. Donc, du côté de Paris, il ne faut pas. Faut pas s'attendre à quelque chose, il n'y aura aucune arrivée, donc voilà, c'est ce que je disais, hein. Déjà on a un groupe très limité qui va mal, donc personne va venir renforcer ça, donc voilà, c'est super. Hein.
Oui, à Paris, en plus, à tous les étages, c'est ça, en fait, personne. Parce que apparemment, Colony Capital serait vraiment dans l'optique de lâcher le club, mais c'est que t'as personne au portillon pour racheter. Là, c'est pareil pour les joueurs, oui.
C'est bien que tu parles de ça là, par rapport à Colony Capital parce que justement, il y a des rumeurs qui ont tourné dans l'après-midi, donc assez surprenantes, comme quoi Colony Capital bah, cherchera à vendre en fait. Donc,
Bah oui, justement, c'est
cherchera
ça.
un acheteur pour le Paris Saint-Germain. Donc, mais apparemment, Bazin a déclaré que pour l'instant, ça ne se bousculait pas au portillon. Donc, il chercherait à vendre, mais pour l'instant, bah, il n'y a personne. Bon, je pense que ça va pas tarder à arriver. Mais en plus, le PSG serait pas fier. Donc, un message, s'il y a des émirs qui viennent d'Abu Dhabi ou d'Arabie Saoudite qui nous écoutent, bah, on vous attend.
Je vois bien les émirs d'Abu Dhabi. Eh, viens sur Génération Soccer, mon frère.
Hein. Pas de soucis là-dessus. Voilà.
C'est bien le genre.
C'est dans la
T'inquiète.
crise ambiante. Hein. On annonce que maintenant. Le Paris Saint-Germain est à vendre, voilà, c'est cool, hein, on est dans la merde jusqu'au bout, donc voilà, autant se défuser et laisser à d'autres personnes, hein, parce que vu le bilan de façon à tirer, je pense que de toute façon c'est la meilleure des solutions. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans les prochains. Je pense pas que ça va bouger d'ici la fin de saison, mais en tout cas, on y est bien, là, c'est bien. On manque un peu de crise, là, depuis bah, quelques mois, là, c'est bien, on est en train de replonger, là, on n'avait plus l'habitude, là, c'est bien, on revient dedans tranquillement.
Justement, Yac qui voulait revenir sur le problème des supporters. Flo, est-ce que t'as eu des nouvelles, enfin on dirait, enfin à propos de cet affrontement? Apparemment c'était entre Boulogne et Auteuil, quoi, dans la tribune à l'extérieur à Lille.
C'est toujours la même chose, hein, des petits imbéciles là, de Boulogne qui provoquent. Ils voulaient se battre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait une fight prévue entre les mecs des indépendants de Boulogne et des supporters lillois. Mais ça s'est pas passé en début de match, donc finalement la fight n'a pas eu lieu. Donc les mecs de Boulogne, ils étaient assez énervés, ils voulaient se battre, donc ils cherchaient quelque chose à se mettre sous la dent. Bah, c'est simple, ils sont tombés sur les petits d'Auteuil, hein, qui étaient en minorité et ils étaient un peu basanés. Donc jusqu'à là, c'est parti rapidement. Voilà, c'est encore un problème entre Boulogne et Auteuil. Ça s'est jeté des fumigènes dans la gueule, ça s'est insulté, ça s'est craché dessus. Voilà, c'est bonne ambiance pour
la routine.
Voilà, c'est pour couronner le tout. Hein. Le club est dans une situation, comment dire, assez catastrophique. Et puis, ben voilà, on en rajoute. Hein.
Les supporters, c'est ça en plus.
Même pas solidaire, quoi.
Ce qui est grave, c'est qu'en plus, quand tu vois que les médias, je trouve, parlent de moins en moins du Paris Saint-Germain par rapport aux dernières années, quand il y avait eu une crise, les seuls qui pourraient vraiment sortir de ce club qui est en train de tomber dans l'anonymat, c'est les supporters. Et si en plus les supporters se mettent à tomber, enfin, vous allez me dire, ça existe depuis longtemps, mais si les supporters continuent leur vieille querelle, la pourrie qui existe depuis je ne sais combien de temps, ça risque, c'est vraiment, enfin, ça risque pas d'arranger, c'est juste que ça va être, encore pire.
Pour l'instant, voilà, le truc, c'est la querelle, ça passe au premier plan et les supporters ne réagissent pas quant aux résultats et quant à ce qui se passe actuellement au club. C'est ça le plus grave, en fait. C'est que malheureusement, on reste dans cette petite guéguerre et à côté de ça, bah voilà, ça permet à Colonie d'être tranquille, les mains dans les poches. Les supporters ont autre chose à s'occuper plutôt que du club, donc voilà, c'est cool. Et, d'ailleurs, je pense que Bazin se frotte les mains quant à la situation, hein. Franchement, je te le dis clairement, quoi.
Ouais, bon, bah je comprends, hein, je comprends. Ta déception.
Pas de beau fixe.
Ouais, exactement. Est-ce que on a fait le tour, je pense, sur le Paris Saint-Germain? Il y a à peu près ce que tu voulais savoir sur les affrontements qu'il y a eu ce week-end?
Ouais, je voulais un peu savoir s'il y avait une raison. Apparemment, non. Ah bon, il faudra quand même un jour se décider à virer ces mecs-là des stades, quoi. Je veux dire, il y a une loi qui existe qui permet d'interdire certains abonnés d'aller au stade. Je crois qu'en France, il y a 50 mecs interdits de stade. Ce qui est complètement ridicule par rapport à ce qu'il y a. Les politiques, c'est surtout les clubs, à mon avis, mettent la pression parce qu'ils savent très bien que s'ils virent ces mecs-là, il n'y a pas d'autres abonnés derrière, donc ils perdent beaucoup d'argent. Qui est leur recette principale, c'est les tickets. Donc t'es partagé entre les clubs qui mettent la pression pour pas qu'on les vire parce qu'ils perdraient trop d'argent et la volonté qui est finalement plus légère du gouvernement de virer ces mecs-là. Voilà, statu quo, et on aura sûrement encore d'autres tambouilles de ce genre-là. C'est désolant.
En plus, le problème, en plus, c'est qu'il il s'agit même pas d'abonnés, quoi. C'était apparemment des indépendants qui sont venus, il y a même certains IDS, en plus, apparemment, qui ont réussi à s'incruster. Donc, il y a des IDS, mais c'est complètement le bordel, en fait. C'est les mecs, ils viennent dans la tribune comme ça, ils ont foutu le bordel, on sait même pas pourquoi, on sait même pas comment ils sont arrivés là. Donc, ça, c'est le bordel, quoi. Même en tribune, Robin Lecroux, le président du PSG, a beau annoncer qu'il faut prendre des sanctions lourdes et sévères, que Paris Saint-Germain fait tout dans le bon sens pour ça. Voilà, aujourd'hui, on arrive à des trucs, c'est limite pas possible, quoi, ce qui se passe. On a l'impression que même de ce côté-là, c'est vachement mal géré, quoi. Donc,
au
niveau sportif, c'est la merde, enfin, c'est un tout, voilà, c'est un tout, quoi. Donc, il n'y a même pas assez de mail là-dessus.
Non, mais on a l'impression qu'en amont, le club j'ai même pas envie de le dire tellement j'ai l'impression de me répéter au fil des mois, mais en amont il y a un vrai problème au club et surtout, tu sais, il y a toujours dans des clubs, c'est toujours dans certains clubs où ça va mal, c'est toujours un peu les montagnes russes, une saison est un peu plus difficile que les autres, mais là on a l'impression que vraiment il faut changer les trucs, mais en profondeur et en amont, et le plus loin possible jusqu'à la racine, quoi. Parce que ça va plus, là. J'ai pas l'impression que, si tu veux, dans les 4 années, ils vont avoir une bonne saison. Il y a des clubs qui, tu sais, ils font une année, ils se battent contre la relégation, puis l'année d'après, c'est un peu la révélation, ils sont 8-9e, puis la saison d'après, ils sont 13-14e, tu vois. Mais donc, ça arrive très souvent, ce genre de situation, dans pas mal de clubs, heureusement. Enfin, je veux dire, tous les clubs ne peuvent pas être premiers, c'est logique. Mais vraiment, dans ce cas-ci, là, franchement, j'ai l'impression que la gangrène a déjà rongé pas mal la racine, quoi.
Bah, c'est ça, le problème, c'est qu'en plus de tout ce que représente Paris et le statut du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est on ne doit jamais être dans cette situation.
Quatrième budget, pas, quand même.
Voilà, bon, quatrième budget, tout est relatif, sachant que on n'a aucune enveloppe mercato. Donc voilà, le quatrième budget, il est sympa, mais si derrière, tu
as un peut... moyen...
Il n'y a pas d'enveloppe mercato parce que vous mettez tout dans les salaires.
Voilà, on peut se poser la question, est-ce que le budget est mal équilibré? Est-ce que le budget est mal servi, tout simplement?
Il y a ça aussi. Bah, c'est, de toute façon, c'est tout ce problème que je disais de direction au club, que le club était géré de façon complètement aberrante. Donc voilà, c'est comme tu disais, Chris, c'est un problème de fond et il faudrait tout revoir. Je suis assez d'accord. Maintenant, justement, si le club pouvait être vendu, ça serait déjà une première étape. Mais malheureusement, il ne faudrait pas s'arrêter là, je pense. Je pense que déjà, il y a pas mal de mecs qui font des lots dans ce club, en passant de la cellule de recrutement et tout le tralala, les mecs qui ne servent à rien, les à l'arrache. Hein. Bon, voilà, le mec, c'est bon, ils ont fait leur temps. Voilà, les joueurs, hein, faut pas se mentir aussi, hein, trois quarts de l'effectif n'ont rien à foutre à Paris Saint-Germain et sont des pires brels qui glandent. Et puis, je sais pas combien d'années ici, quoi, en parlant des mecs comme Sylvain Armand, et encore qui veut s'ouvrir aujourd'hui, là, mais franchement, j'ai juste envie de lui dire casse-toi, quoi. Donc, voilà, c'est... D'ailleurs, je dis Sylvain Armand.
Honnêtement, Chris, honnêtement, Flo, si t'arrêtais déjà de refourguer tous tes collègues au PSG, là, tous tes sacs carrés, tout ça, avec tous les matins, là, déjà, ça irait peut-être déjà mieux, parce que
j'aurais une réussite avec Loris Armand, clairement.
C'est déjà pas mal. Ouais, non, mais ça, c'est grâce à moi, c'est la filière Clermontois, ça, c'est grâce à moi, hein, donc t'as réussi. Ouais, Chris.
Non, mais c'était juste pour la vanne, je disais dis-le pour Sylvain Armand. Et bon, ça va, il s'est pas gêné de le dire, donc ça va.
Oui, donc voilà, c'est ce que je disais. Il y a tout à changer. En passant des actionnaires, d'ailleurs, c'est pas la première fois que je le dis, hein. Je me répète sans cesse, mais bon, avec Paris, c'est toujours un problème. Et le problème, c'est que là, on commence à couper tout et qu'il n'y a aucune réaction. En fait, ça qui me fait peur, c'est qu'avant, il y avait de la réaction, que ce soit au côté du supporter ou de certains dirigeants, même des entraîneurs qui savaient prendre des décisions. Et là, que malheureusement, ça bouge plus. Donc là, ça m'inquiète vraiment. On est en train de prendre je sais pas comment dire ça, mais on rentre dans quelque chose d'assez grave. Et là,
alors, un tout petit souci apparemment. Est-ce que vous êtes là?
Oui, c'est bon. C'est
ça va. Il y a un petit problème, mais nous sommes toujours à l'antenne. Nous sommes toujours en direct. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Narpi, il est toujours là aussi. L'avis d'un supporter qui connaît bien les clashs dans les tribunes, Narpi, par rapport à la situation. Oh, c'est pas joli, c'est pas joli. J'ai honte. Narpi, est-ce que tu en penses?
Ah oui, j'ai eu la chance ce week-end d'être sur Grenoble. Et j'ai eu la chance aussi d'être samedi en ville et d'être au match. Et j'ai pu assister... vraiment, vraiment, j'étais très proche de tout ce qui s'est passé. C'était vraiment très beau. Donc, pour revenir justement, on en a parlé dans les médias, aux incidents qui ont eu lieu au stade, à Grenoble, entre supporters stéphanois et CRS. Bon, apparemment, à la mi-temps, ce serait finalement des supporters stéphanois qui auraient volé une cafetière à vin chaud à la buvette de leur parquage qui se serait fait choper par les CRS et s'en serait suivi des gazages et finalement des lancers de sièges dans le vomitoire principal du parquage. Mais bon, ces choses-là étaient arrivées déjà, cette tension était déjà présente samedi après-midi, avec malgré tout des Stéphanois très présents en ville, notamment pour ne pas les citer, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, puisqu'il y a certaines choses qui doivent rester secrètes, dirons-nous. Quelques Stéphanois, une cinquantaine, qui ont investi un bar en ville, des jeunes, on dira, d'un groupe qui est né en 1992, et qui ont pu provoquer globalement les supporters grenoblois qui étaient à quelques mètres, et s'en seraient suivis quand même quelques affrontements oraux, et puis quelques contacts pour savoir si leur parcours était le même que leurs adversaires du soir. Donc au final, on a assisté quand même à un cortège stéphanois allant du centre-ville au stade, avec quelques fumigènes et autres bombes agricoles, quelques chants pour chambrer et une certaine pagaille entre les CRS qui veulent gérer les supporters stéphanois et qui veulent gérer les supporters grenoblois installés dans le parc Paul Mistral, pour ceux qui connaissent, à côté du stade, et qui voulaient, il y avait un certain nombre qui voulaient quand même les chercher et pouvoir les avoir un petit contact amical avec eux. Donc c'était vraiment, il y avait une vraie tension pendant toute la journée. En ville, on savait que au final ça allait, il allait se passer quand même un truc, et on avait l'impression quand même que dans le stade il y avait déjà une certaine tension, et au final ce qui s'est passé à la mi-temps, bah c'est de la connerie pure, que ce soit d'un côté comme de l'autre, parce que on a vu des CRS qui gazaient absolument pour rien, parce qu'ils gazaient tout le monde pour que dalle. Trois supporters qui volent une cafetière, je suis désolé, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Et pour gazer 1000 personnes et finalement créer un mouvement de foule et se faire répondre, parce que finalement les CRS ils se sont bien fait enculer, pour employer un terme assez tribal, parce que bon, des sièges dans la gueule, ça fait jamais plaisir. Et en plus, ils ont eu leurs collègues, leurs homologues de l'autre côté de la tribune, devant la tribune grenobloise, ont eu le plaisir quand même d'investir le devant du COP grenoblois pour rien, face à des boulettes de papier. On ne sait jamais, hein, si se cache un siège. Parce que dans une boulette de papier, on peut très bien mettre un siège. On ne sait jamais, tu vois, avec les boucliers. Parce que, je sais pas, peut-être un bâton de TNT, je sais pas, c'est une certaine paranoïa chez nos amis fonctionnaires de police. Et voilà, face à des boulettes de papier, ils sont même partis en rigolant et en regardant leur chef d'un air béat en disant « Mais qu'est-ce qu'on fout là? Ça ne sert à rien. » Ils se sont même fait applaudir, c'est dire leur niveau. Et donc, au final, voilà, et à la fin du match, il y a aussi eu quelques petits trucs avec des supporters des deux camps qui se sont, on va dire que les Grenoblois ont raccompagné les supporters stéphanois, quelques Grenoblois ont raccompagné quelques supporters stéphanois, enfin bref, ça c'est le lot de chaque match, chaque derby, et voilà. Mais en tout cas, c'est de la connerie, c'est des broutilles qui finissent en une des journaux pour rien.
Voilà.
Parce que, alors certes, la situation du club à Saint-Etienne, c'est de la merde, il faut le dire. Mais ils gagnaient, à la mi-temps ils menaient. Donc ils ont trouvé un prétexte pour foutre un peu leur bordel. Voilà, une minorité qui finalement s'est transformée en une majorité de mecs qui lançaient des sièges. Et à Grenoble, parlons-en, n'est-ce pas Flo? Et pour des supporters grenoblois, malgré tout, encouragent quand même leur équipe et finalement se retrouvent avec des CRS qui se plantent devant leur tribune pour rien. Pour absolument rien, et ben ça crée des tensions inutiles. Parce qu'au final, les plus gros mouvements de foule dans la tribune grenobloise, c'était uniquement parce que les CRS sont venus devant la tribune, et ne serait-ce que leur présence était une provocation. Et alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu à Paris, parce qu'à Paris, c'était entre supporters. Là, c'était vraiment les CRS qui ont essayé de faire leur loi en tribune, qui ont la débilité, parce que c'est de la pure débilité, de gazer une tribune, on l'a déjà vu ça à Grenoble, de gazer une tribune entière. Imaginez ce que ça fait un énorme mouvement de foule, des gens qui se... En plus, le parquage, il est entouré de grillages et de barrières, donc au final, les gens s'agglutinent sur les côtés, Et ça se transforme en quoi?
Le SL très dangereux, c'est ouais, voilà, c'est ça, le SL remake 2010.
Et oui, donc ça crée des mouvements de foule inutiles, et au final on se retrouve avec des masses de gens qui s'écartent de la zone où sont les CRS et qui s'agglutinent contre les grilles. Pour rien.
Non mais Narpi, ça se serait passé il y a 20 ans, vous auriez compté les morts, quoi.
Ah oui, non, mais c'est pas la première fois que ça arrive. En tout cas, à Grenoble, c'est pas la première fois que ça arrive.
Bah ouais, c'est vrai que c'est assez inquiétant quand même des choses comme ça. Parce que quand on sait justement ce qui s'est passé notamment en Angleterre, ce qui a pu se passer en Belgique également, c'est assez inquiétant quand on voit que les CRS comme ça peuvent utiliser certains moyens pour faire des mouvements de foule, et dans ces mouvements de foule, il peut également, comme tu l'as dit, avoir certains piétinements, des bousculades, et qui peuvent aboutir sur des choses gravissimes. Ouais. Et tu as bien fait de nous signaler cet événement qui a finalement pas été tellement relayé dans les médias. On a plus parlé encore de l'affrontement entre les deux groupes de supporters du PSG, plus que de ça, alors que finalement, ça en valait peut-être beaucoup plus la peine que les petites querelles puériles des deux groupes de supporters du club de la capitale. Messieurs, là-bas, on a tout de suite descendu sur notre prochain sujet, Grenoble-Saint-Etienne. Tout d'abord, Saint-Etienne, Hugo, toi qui les as vus justement samedi, est-ce que tu penses, on va revenir à un plan un petit peu plus sportif après ces quelques commentaires sur ce qui s'est passé en tribune, est-ce que tu penses que Saint-Etienne peut enfin percevoir le bout du tunnel après un début de saison galère, après le match qu'on a vu en semaine en Coupe de la Ligue Saint-Etienne-Marseille, où Saint-Etienne, même si c'était vraiment à l'énergie contre l'OM, ont réussi à faire un match correct, notamment une bonne première mi-temps. Et là, ils viennent, bon, tu vas me dire c'est Grenoble, mais ils retrouvent un peu le goût de la victoire, ils trouvent un nouveau entre guillemets buteur, le petit Rivière, qui a l'air d'être un joueur assez polyvalent et assez intéressant, et puis il trouve en la personne de Galtier un entraîneur peut-être qui pourrait insuffler un second souffle à l'ensemble du groupe. T'en penses quoi toi, Narpi, et est-ce que tu serais un petit peu plus confiant si tu étais supporter stéphanois actuellement?
Je serais en tout cas moins dépressif, voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce que ils ont fait un bon match contre l'OM, ils ont perdu. Ils ont fait un mauvais match contre Grenoble, ils ont gagné. Bon, finalement, c'est peut-être un bon signe. Pour revenir au match de samedi, la défense stéphanoise est quand même très faible. On le savait, mais là, c'était assez flagrant.
Même l'arrivée de Diakité n'a pas stabilisé tout ça.
Non, pas réellement, quoi. C'est pas. C'était vraiment. Je te le dis franchement, hein. Diakité a fait quand même un match relativement bon, mais c'était en première période, c'était vraiment une défense, une équipe de Grenoble qui essayait de produire du jeu sans y arriver, bien évidemment, comme d'habitude, avec un Courtois encore plus mauvais que d'habitude, et vraiment une équipe de Saint-Etienne qui produisait des comptes de très bonne facture d'ailleurs, avec beaucoup d'appels en profondeur de Miralas qui a fait un très bon match, il faut le noter, de Rivière qui aussi a fait un bon match, Perrin était solide, Payet a fait son taf, et on avait vraiment beaucoup d'appels en profondeur, et Viviani nous sauve la baraque une première fois, et au final on se retrouve avec une erreur de la défense, une mauvaise relance sur un coup franc de César, ça donne un ballon pour Miralas, il me semble, qui sent pour Perrin, et le deuxième but, c'est vraiment la défense grenobloise qui est complètement à la rue, qui oublie complètement Rivière à l'opposé, une passe en profondeur, Rivière lobe Viviani, et il y en a eu plusieurs. Rivière a une deuxième occasion derrière, il la met à côté, heureusement, ça c'était 1-0, et bon, après en deuxième période, on a senti des Grenoblois beaucoup mieux, on a senti Galtier, parce qu'entre temps, il y a quand même la réduction du score de Varro contre son camp. Et à un moment, les Grenoblois n'étaient pas forcément très bons. Hein. Et en deuxième période, on a senti des Grenoblois plus entreprenants, forcément, parce que Galtier voulait boucler derrière. Varro se blesse. Il y a un remplaçant qui arrive, d'ailleurs, qui s'est Diakité. Et on sent quand même la défense stéphanoise, même si elle était reculée, elle était prise dans son dos. Sur tous les ballons, les petits ballons en cloche, les centres rentrants, c'était vraiment à chaque fois un Grenoblois qui était derrière la défense, qui était lobé elle-même, qui prenait le ballon. Donc on l'a vu avec, Payot, qui est tout seul, qui met une tête splendide dans la lucarne, et Jeannot, d'ailleurs, là, Jeannot, c'est pour moi le plus bel arrêt que j'ai vu dans un stade de foot de ma vie.
Ah oui, ouais, je le conseille, effectivement. Ouais.
C'est splendide, tout simplement. Donc grâce à lui, c'est avant tout grâce à lui, puisqu'après il enlève une tête encore de Dieuze, et puis une frappe de Matsu, il me semble. Et donc voilà, il a été exceptionnel. Et puis Grenoble, c'est un manque d'efficacité flagrant. Une première période, on a quelques occasions avec, d'une part, Courtois qui rentre dans la surface. Il est sur son pied gauche. Il a juste à frapper. Il met une mine à côté. Elle passe pas loin.
Ah, c'est énorme. On dirait Eugène Sacomano. Il met une mine à côté.
Voilà, non, mais c'est excellent. Excellent. C'est la réalité. Ensuite, un coup franc de Matsui ou de Batless. Tout le monde laisse passer au second poteau. Il y a juste Jean, Jimmy Jean, qui a juste à mettre une petite frappe. Une petite reprise de volée, demi-volée, même intérieur du pied, rappelle le ballon. Et après, c'était le grand n'importe quoi. Alors là, on est tombé.
L'apothéose, quand même, l'apothéose, tu vas nous la dire, celle qui te calme la plus à cœur.
Ah oui, oh, c'était magnifique. J'étais juste devant et là, je me suis dit, ça y est, c'est beau. Et donc, on a un centre ou un corner, tout le monde rate le ballon arrive, il rebondit juste devant la ligne. Luboya, il est vraiment à côté du poteau, mais vraiment la tête devant le but, quoi, dans le but. Il est à 2 mètres. Le ballon arrive sur sa tête. Il met la tête, il la met à côté. Il la met à côté. Il nous a fait une Elstadt, parce que Elstadt l'avait déjà fait avec Le Mans. On avait dit ça, c'était la plus grosse poulette. Eh bien non, Luboya est là. Donc, c'était n'importe quoi. Ensuite, on a un coup franc. Un coup franc indirect parce que je crois que c'est Diakaté qui fait une passe en retrait à Jeannot. Donc on a un coup franc qui est sur la ligne des 6 mètres, excentré, pour le pied gauche de Luboya qui a juste à l'enrouler un peu dans la lucarne. Il la met à côté. Il la met à côté, c'est pas possible. Ensuite, on a un centre au second poteau. Tadic est tout seul. Il contrôle de la poitrine. Il a juste à mettre une petite demi-volée intérieure du pied. Il la met au-dessus. Après, on a un dernier ballon, encore une fois, un ballon en cloche. La défense stéphanoise est complètement à la ramasse et battue. Derrière, il y avait Payot et Acrour, tout seuls, les deux. Les deux, ils se marchent dessus et ils ratent le ballon. C'était, mais, ahurissant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et puis au final, voilà, on perd. On perd, tout simplement. Voilà, donc Flo, tu avais peut-être une question sur Grenoble.
Ouais, Marty, j'ai entendu, là, c'est samedi, je crois que ça m'a surpris, mais apparemment, si Grenoble, d'ici la fin du mois, n'est pas, est toujours empêtré dans la fin de tableau, comme ça risque d'être probable, les dirigeants auraient promis de libérer Luboya et Romao. Je sais pas si tu as des infos de ce côté-là.
On en parle.
Luboya qui est quand même, tu le confirmes quand même, un des, si on peut dire, s'il peut y avoir une satisfaction cette saison à Grenoble, quand même, une satisfaction, oui.
C'est quand même les deux piliers de l'équipe de Grenoble, quoi.
Même si hier il fait un match de merde sur le fin de la saison, c'est le joueur de Grenoble et il mérite très largement sa place dans une équipe de milieu de tableau de Ligue 1, voire un peu plus. Hein. Bon, pas au-dessus largement, mais quand même. C'est un super joueur et c'est grâce à lui qu'on a 7 points. C'est grâce à lui qu'on a 7 points. Voilà. Mmh. C'est pathétique de dire ça, mais voilà. C'est la réalité. Alors, je sais pas si ça va être fait ou alors c'est pour mettre un coup de pression sur les dirigeants sportifs en disant, bon, bah maintenant, faut peut-être se bouger le cul. En tout cas, Luboya, s'il n'est pas libéré à la fin du mois, il partira à la fin de l'année. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il a envie de faire le mondial, il le fera peut-être. Je sais pas si l'équipe de Serbie, au niveau avant-centre, n'est pas forcément très bien fournie.
Non, il y a Kezman avant lui, malheureusement.
Ouais, bon, il y a Zigic, il y a Kezman, mais c'est pas bon. Donc, je pense que Luboya ira à la Coupe du Monde. En tout cas, j'espère pour lui. Romao, on va déjà attendre qu'il revienne.
Il revient
oui, il faudrait qu'il revienne quand même de son épisode malheureux que le Congo. Et on va voir, mais ça, c'est le genre de choses. Tu sais, nos dirigeants, c'est quoi? C'est des grandes gueules et des petites couilles. Bah, c'est des Japonais. Donc, c'est des mecs qui... Les mecs aiment bien raconter n'importe quoi. Tu vois, alors ils croient qu'on comprend pas parce qu'ils parlent en japonais, tu vois. Donc ils pourraient dire, voilà, on va recruter Anne Roumanos.
C'est ce que j'allais dire, à ce moment, attends, excuse-moi, mais à ce moment-là, autant préparer la Ligue de Justine et tu recrutes des mercato, des joueurs capables d'évoluer en Ligue 2 l'année prochaine, quoi.
Ouais, mais c'est le problème, c'est que ils y croient encore d'une part, et en plus ils ont l'air de. Alors ils ont commencé déjà un peu à. Ils ont déjà vendu Maquet. Ils vont quand même essayer de garder les joueurs à l'heure actuelle qui sont quand même relativement bons, d'essayer individuellement de les faire briller pour amasser un minimum de pognon à la fin de la saison. Voilà. C'est que si tu les lâches maintenant, si on fait une bonne fin de saison, même si on descend en Ligue 2, ils seront peut-être un peu plus vendables, entre guillemets, que s'ils restent sur cet échec de première partie de saison. Donc voilà, autant les garder jusqu'à la fin de la saison, et on vendra, et après on préparera. J'espère d'abord qu'on préparera avant tout avec le centre de formation, hein, qui est quand même très bien fourni. Mais bon, tu sais, nos dirigeants, voilà, ils ouvrent leur gueule à chaque fois, ils disent on va faire ça, on va faire ci, la Ligue des Champions 2014, le centre d'entraînement l'année prochaine, oui. Bon, c'est tout. C'est... Voilà, donc ils ont ouvert leur gueule pour rien, parce qu'on s'en fout. Si Romao et le Boyapar, bah, ils partiront. De toute façon, on s'attend à quoi? Le Fegouli, t'as l'impression qu'il s'est jeté dans l'Isère et qu'on va le retrouver quand on aura quand on aura fait un barrage, tu vois, tu sais. On va le retrouver, tu sais, dans le vieux port de Marseille, tu sais. C'est pas possible. Ce mec, c'est voilà, tu sais même pas où il est. Je crois que même sa mère ne sait pas où il est. Je crois qu'il s'est perdu. Je sais pas. Je ne sais pas. On ne le retrouve plus. Donc ce mec, voilà, on ne sait pas s'il est blessé, on ne sait pas si finalement il va se barrer, on ne sait pas s'il reste, on ne sait pas. Ce club, c'est voilà, c'est pour l'instant, toi t'es là, puis tu regardes, et puis t'attends, et puis tu te dis bah pourquoi pas, oui. T'as dit que je reviens, ok, bon bah on nous a dit en octobre qu'il était blessé pour 2 mois, bon bah ça fait un peu 5 mois, mais c'est pas grave. Tu t'attends, tu vois Viviani titulaire, ok, bon c'est pas comme si le Chrome avait fait des meilleurs matchs que lui, ok, bon c'est pas grave. Tu sais pas, tu vois Courtois qui est titulaire alors que le mec c'est un El Moubarki mais gaucher, c'est n'importe quoi. Donc t'es supporter grenoblois, bah tu dis bah voilà, la seule chose qu'on sait c'est que on a notre abonnement pour aller au stade et puis on y va et puis on attend de voir. Les déclarations dans les journaux, c'est quoi? C'est Ventier qui dit que tous les joueurs sont des petits cons et qu'au final il laisse Fegouli prendre des vacances d'une semaine entre deux matchs pour aller voir ses parents sur la région parisienne. Bah voilà, écoute, c'est n'importe quoi. Donc ils sont libérés, ils sont
les gars, on va faire un club de dépressifs là entre Flo,
Allez, il m'a tué là.
Manquerait plus que Chris nous sorte une blague belge et puis alors là on arrête la radio là, parce que...
Je suis malade aujourd'hui donc je m'abstiendrai. Malheureusement la tradition. Ouais.
Mais voilà, c'est. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien dire, ça te laisse sans voix. C'est-à-dire que les dirigeants vont commencer à faire des déclarations à la con pour rien. Parce que ça sert à rien. On n'en a rien à branler que Romao et Luboya ils partent. On n'en a rien à branler. Nous, on veut voir un club. On ne veut pas voir une équipe avec des mecs qui je suis là, machin, je joue en Ligue 1. Et, tu vois, j'ai fait 3 dribbles, j'ai fait une frappe, je suis bon et tout. Moi, je m'en branle. Je veux voir un club. En face de moi, j'ai pas de club. J'ai un stade. J'ai une équipe qui sert absolument à rien. J'ai un staff qui ne sait même pas où il est. T'as des dirigeants, les mecs ils font des déclarations du fin fond du Japon, les mecs ils regardent les matchs en streaming sur internet. Qu'est-ce que tu veux faire à côté de ça, les mecs? On va dire on va vendre Romao, bah oui, bah le Romao il est passé à 2 doigts de la mort, tu sais, c'est comme si lui il va rentrer en Grenoble, il va faire bon les gars, voilà, moi je me casse. Et tu te casses où? Tu te casses où? Essaye déjà de revenir tranquillement. Bah les dirigeants vont lui faire quoi? Lui il va revenir, il va vouloir jouer avec l'équipe, il va dire non mais attends, on a dit qu'on te laissait libre. Il va faire, bah attends, moi j'attends la fin de saison. Mais non, 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 vas-y, casse-toi, allez, va, tu nous portes la poisse, là. Tu sais, c'est les Japonais, là. Leurs espèces de trucs vaudous, là, je sais pas quoi, là. Tu sais, le mec, la mort, il l'a amené avec lui, la mort. Tu sais, la mort, il l'a amené avec lui, donc on sait jamais, le mec était dans le bus maudit. Attends, Marc, non. Et les mecs, ils vont plus prendre le bus avec Romao, ils vont pas prendre le bus avec Romao.
S'ils pourraient croiser David Gemali en C4.
Mais Gemali, je crois qu'ils l'ont enfermé. Ils l'ont mis dans la baignoire et ils l'ont scotché, ils l'ont fait non, toi tu joues plus. T'es mort. On t'a oublié, voilà, hop, ils vont appeler Besson, ils vont lui dire, allez, hop, un charter pour la Tunisie, on veut plus le revoir. Voilà, c'est ça, c'est le club de Grenoble, c'est ça. Et le Boya, il est au milieu de tout ça, et puis il met une tête à côté, il met un coup franc à côté, et puis bientôt, il ira, au lieu de prendre la sortie Stade des Alpes, il prendra direction Paris. Puis voilà.
Ah.
Bon, d'ici direction Paris, tu sais, à partir de Paris,
je serais capable de le retrouver, c'est bon.
On a bien compris le message, Narpi, on a entendu un supporter content avec son club, là, on a compris.
Finalement, on a le
message. Ouais, finalement. Et messieurs, on va finir là, cette page Ligue 1 juste sur un petit bilan, on va dire, entre guillemets, des trois clubs qui sont actuellement relégables. Je rappelle le classement en fin de tableau. Le Mans, 16 points et 18e actuellement. Boulogne est 19e avec 15 points. Et Grenoble, donc, est 20e avec 7 petits points. Alors, justement, on avait imaginé avec l'équipe ce soir de dresser un petit peu. Un petit peu, on va dire, un archétype, un prototype, un portrait de l'équipe qui ne réussit pas cette année en championnat et qui donc est relégable. Quoi. Quels sont les points communs entre Le Mans, Boulogne, Grenoble, tout ça Alors, Flo, par exemple, t'es d'accord? Toi qui as vu que toute la première partie de saison s'est écoulée avec le PSG, t'as vu au moins à chaque fois une de ces trois équipes. Qu'est-ce que tu retiens au-delà peut-être de l'effectif qui est vraiment très faible entre les trois équipes? Tu retiens peut-être que les entraîneurs ne sont pas à la hauteur? Tu retiens quoi? Tu retiens que on avait noté par exemple avec Romeo que c'est vrai que les stades du Mans et de Boulogne sont sûrement les pires de Ligue 1. Quoi. Alors Grenoble relève le niveau, mais c'est vrai que alors, je ne sais pas si ça peut influencer, mais je ne sais pas toi comment tu vois, on va dire, pourquoi en fait en gros ces trois clubs-là se retrouvent à ce niveau à ton avis.
Déjà pour reprendre ce que tu as dit, pour avoir déjà fait un déplacement au Mans, franchement le stade des Hongolais, bah déjà... Heureusement qu'ils vont avoir un nouveau stade, là, parce que c'était vraiment la cata. Hein. C'était mes vétus de chez vétus, des toilettes. T'avais l'impression de trouver dans un film d'horreur. Enfin, c'était assez incroyable, quoi. Sinon, bah, les entraîneurs, je sais pas si on peut vraiment dire des entraîneurs pas à la hauteur. Je pense que surtout les entraîneurs de ces équipes font avec les moyens du bord, quoi, j'ai envie de dire. Donc, ce qui caractérise, voilà, c'est même pas un manque d'ambition. Voilà, c'est une équipe qui fait avec les moyens du bord, une équipe qui part remonte de Ligue 2 en Ligue 1, c'est pas facile. Une équipe ou une équipe comme Grenoble qui après avoir vécu une première saison plutôt bonne, d'ailleurs c'est là qu'on dit que la deuxième est la plus compliquée parce qu'il faut confirmer derrière, il faut s'installer dans une certaine stabilité. Bah, Grenoble l'a payé très cher, donc voilà, c'est peut-être ce manque de régularité, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment les accabler? Voilà, c'est ça. Et comme je disais, ils font avec les moyens du port, ils ont un effectif limité. Voilà.
Ah, c'est vrai que par exemple, Le Mans n'a pas réussi à faire les coups sur le mercato, qu'ils arrivent à chaque fois à sortir un joueur.
C'est ce que j'allais dire, tu vois. Le Mans s'appuie souvent sur des recrues, des renforts de choix qui arrivent à faire venir des joueurs qu'ils repèrent, mais. Ces derniers temps, ils perdent beaucoup de joueurs. Donc voilà, chaque année, ils ne peuvent pas sortir comme ça, 3-4 merveilles qui vont forcément. C'est pour ça qu'au fil et à mesure du temps, bah, ces équipes perdent en valeur, perdent en régularité. Et à la fin, ça fait qu'ils peuvent plus surnager en Ligue 1. Quoi.
Moi, je pense que, avant tout, un club type. Pour descendre en Ligue 2, c'est un club qui n'a pas de stabilité, enfin en tout cas qui n'a pas de hiérarchie bien prononcée au niveau des dirigeants. Donc c'est le cas de Grenoble, bon, j'en ai déjà parlé, c'est le cas de Saint-Etienne, où c'est complètement le bordel.
Oui.
Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi à Saint-Etienne. Arrêtez, entre Romeillet, Kayadzo, ils virent tout le monde. Ils embauchent des mecs qui servent à rien. T'as Galtier qui prend la place de Perrin. D'accord. Mais au final, Galtier, à la fin de la saison, va se faire virer. Et puis, vont engager Luis Fernandez. Puis voilà. Donc, Kayadzo et Romeillet, c'est deux pantins qui servent absolument à rien. Et c'est des mecs qui... où on n'a limite aucune visibilité par rapport aux finances du club au niveau, par exemple, transfert. Quand des fois, ils t'annoncent qu'ils n'ont pas de sous pour acheter un joueur et puis au final, 3 jours plus tard, ils dépensent 6 millions pour un autre. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. C'est une stabilité, en tout cas une hiérarchie, un organigramme bien organisé. C'est le problème de beaucoup de clubs. Alors, c'est surtout le cas de Grenoble et de Saint-Etienne. Et c'est pour ça que je vois Saint-Etienne assez mal barré. Après, au Mans, le Garda a l'air d'être en place. Et ça a l'air d'être, bon, malgré tout, un bon président qui s'occupe de son club comme il peut. Hein. Flo le disait, quand tu te fais piller tes joueurs toutes les saisons, c'est sûr que c'est difficile. Alors, il construit quand même un projet sur l'avenir avec le MMA Arena. Maintenant, il y a aussi Nice qui est un peu dans cette situation où Cohen est parti, et puis finalement, c'est pas trop. Et puis les nouveaux dirigeants, c'est les actionnaires qui ont pris le truc, un peu comme au PSG, où tu as l'impression que c'est l'actionnaire majoritaire qui est président. Tu sais pas, c'est un peu n'importe quoi. Bon, c'est qu'à Nice, certains vautours, un peu comme à l'OM, tournent autour du club pour
prendre depuis longtemps. Ouais.
Voilà, pour avoir, ils ont des intérêts dans le club, que ce soit financier ou au niveau du pouvoir, limite politique, quoi. Donc c'est un peu le bordel aussi à Nice, hein. C'est un peu la même chose à Nice.
Juste, tant que j'y pense, voilà, Nice, j'annonce officiellement, parce que j'ai eu des infos par là, que l'affaire, vous en rappelez sûrement, que Tapie avait fait des déclarations dans la Provence comme quoi il voulait racheter Nice et tout ça, c'était effectivement un gros bluff et qu'il n'avait alors en aucune façon l'intention de racheter le club niçois. Bon, bref, c'est une info Génération Soccer, vous en faites ce que vous voulez. Désolé de t'avoir coupé, Hugo.
Non, enfin voilà, c'est qu'il rachète ou pas, de toute façon ça changera pas beaucoup à la situation actuelle du club. Hein. Donc voilà, c'est ça. C'est, pour moi, c'est avant tout ça. C'est quand en haut ça va pas, bah en bas ça va pas non plus. Simplement, c'est comme un club, c'est comme un pays. Hein. Quand le gouvernement est bordélique, le pays est bordélique. Là, quand les dirigeants sont bordéliques, au final, au niveau sportif, c'est le reflet des dirigeants d'en haut. Donc, c'est tout simplement. Donc, pour moi, c'est avant tout ça. C'est aussi par rapport aux infrastructures. Alors, là, on voit quand même avec Grenoble que... Après, Grenoble, c'est le problème, c'est que Grenoble accapare toutes les tares du football, donc à part le stade. Donc, au final, tu pourras toujours dire un truc, tu pourras toujours citer Grenoble. Donc, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple. Mais voilà, c'est pour moi, c'est avant tout au niveau hiérarchie. Si c'est pas prononcé, c'est le bordel.
C'est vrai, et au-delà de ça, on a évidemment l'argument qui tient pour souvent les clubs qui sont relégués. Bon, c'était pas vrai il y a quelques saisons quand Lens et Paris, et même tout, enfin non, surtout Lens et PSG, tombaient dans les zones de relégation, mais c'est vrai que là, ces trois clubs qui sont vraiment très très peu médiatisés, notamment pour Le Mans et Boulogne-sur-Mer, qui sont quand même deux villes très modestes. Grenoble est quand même un petit peu plus grand au niveau de la superficie et du nombre d'habitants. Mais au-delà de ça encore, c'est vrai que si on regarde également les effectifs, ce sont sûrement les effectifs peut-être les plus faibles de Ligue 1. Et enfin, il faut dire que ils ont tous, évidemment, vous allez me dire ça en découle, mais ils ont tous les pires différences de but, ils ont les pires peines à trouver une certaine stabilité dans les résultats. Par exemple, ils ont autant de défaites presque chacun que de victoires à domicile, donc même à domicile ils n'arrivent rien à faire. Même Grenoble est encore en dessous évidemment avec ses 8 petits points, donc c'est vrai que c'est une situation en tout point, il n'y a vraiment pas de points positifs. effectif. Il n'y a aucune des équipes qui a vraiment un buteur attitré. Il y a Louboya qui en est à 5 réalisations, c'est ça. Arrête-moi si je me trompe, Hugo, mais il me semble bien.
Oui, il me semble bien aussi.
Ouais, 5 réalisations. Il y a quand même, au Mans, par exemple, il y a un joueur comme le Talek qui en est à 6 également. Mais je sais pas si ça peut suffire. Elstadt, sur qui on avait fait énormément, je me rappelle qu'on était arrivé au Mans la saison dernière, finalement a prouvé qu'il ne méritait vraiment pas le statut qu'on lui a attribué très rapidement. Donc bon, Boulogne également, on peut dire qu'ils sont montés un petit peu trop rapidement au classement. On en a souvent parlé. Ils ont même réussi, je crois, pendant une journée à atteindre la première partie de classement, première partie de tableau. Mais ils sont vite redescendus. C'est peut-être, ça a peut-être été un tort pour eux de monter aussi vite, de grimper aussi vite comme ça. Et puis, oui, c'est Flo pour continuer sur Boulogne.
Ouais, pour Boulogne, je pense qu'au-delà de l'effectif plus que limité qu'ils avaient en début de saison, ils ont eu surtout le manque de chance quoi, de perdre leur meilleur joueur et buteur Grégory Field, c'est sûr. Ouais. Donc, je pense que c'est ça joue beaucoup. On avait au début de saison, ils leur rendaient plus que des services. Et quand il va revenir, je pense que ça va aller peut-être un petit peu mieux. Et puis Boulogne, dans ce mercato, a aussi fait l'effort de renforcer son effectif avec Belaïd, Capo et le jeune Chilien aussi qui est arrivé là. Donc pour l'instant, ils ont un renforcement sur chaque ligne. Donc je dis pas que ça peut leur permettre de se maintenir, mais au moins ça, enfin les dirigeants ont tout fait en tout cas pour essayer de maintenir Boulogne en Ligue 1 cette année et ont fait les efforts de sortir un peu d'argent. Je pense que voilà, c'est un exemple que devraient suivre certains quoi là.
Très bien, très bien. Bon, bah, je pense qu'on a un petit peu fait le tour, quoi, en essayant de montrer les diverses facettes, on va dire, des clubs qui ne réussissent vraiment pas cette année en Ligue des Champions. Bah, pour faire un petit récapitulatif, je vais rappeler les scores de la dernière journée, évidemment. Bon, Bordeaux-Marseille, on en a parlé en début d'émission, un but partout. Auxerre-Boulogne, il y avait eu 0-0, c'était samedi soir. Grenoble-Saint-Etienne, on en a parlé, 2-1 pour les Stéphanois au Stade des Alpes. 3-0, les Manceaux ont encaissé une lourde défaite face à Lorient sur leur terrain. Lille, on en a parlé, a gagné 3, s'est imposé sur le score 3-1 face au PSG. C'était samedi soir également. Montpellier-Nice 1-0. Nancy alors que là il y a les envahisseurs
nous sommes qui très, sur ce nous sommes très demandés et qui est demandé à ce point.
Lyon donc s'est imposé sur le score 2-0 à Nancy. Rennes-Lens 1-1. Toulouse s'est imposé sur le score de 3-1 sur le terrain de Valenciennes. Et enfin Monaco s'était imposé 2-0 samedi soir également face à Sochaux. Messieurs, je vais vous remercier de votre participation. Ça a été une très bonne émission, un plaisir. Je rappelle que ce soir, il y avait Chris en off et qui est intervenu certaines fois. Roméo était également là. Il y avait Yac. Il y avait Loïc qui nous a quitté un petit peu plus tôt. Il y avait Hugo et il y avait Flo qui nous a rejoint aussi en cours d'émission. Pour compléter cette grosse page Ligue 1. On se retrouvera sûrement dans la semaine pour parler Europe, pour parler des Français un petit peu à l'étranger. Flo, je te laisse le mot de la fin sur un joueur, un ancien joueur, un ancien pensionnaire de la Ligue 1 qui est en train de faire un carton à l'étranger dans le club de cœur d'un des membres de la radio, je ne sais pas lequel, mais je te laisse le mot de la fin, Flo.
On avait parlé samedi, je crois, vraiment, c'est ça.
Exactement.
Que, voilà, je pense qu'on était juste un peu visionnaire sur le coup. Quoi. On parlait du retour en grâce, en semi-grâce de Ronaldinho, de Digno, comme je le dis si bien. Bah, je crois que le match de dimanche n'a fait que confirmer notre débat. Même si c'était certes contre le dernier de la Serie A, je crois, contre Sienne, mais le petit Clément Ronaldinho a planté un triplé, tout sourire, notamment un troisième. Magnifique, hein. Tu étais d'accord avec moi. De nombreuses passes aussi, de nombreux dribbles.
Slalom également.
Ouais. Et slalom, ouais, c'était tellement facile pour lui que voilà, c'était juste ça. Ça fait plaisir. Mm-hmm. On était juste pour dire qu'on sur ce coup-là, on était encore assez visionnaire. Hein. On l'a vu avec un Vladimir qui revient de plus belle.
Faudrait pas qu'il fasse une overdose, quoi.
Messieurs, je vais. Alors là, on peut être fier de ça. Tiens. On va donc se quitter. Merci à tous pour cette bonne émission. 23h11, restez sur Génération. La musique continue. Et Chris.
Ouais, tout simplement pour remercier aussi tout le monde, les auditeurs qui sont encore une petite dizaine, un petit peu moins maintenant. Pour signaler que ce mardi à 19h, il y aura le match de National qui opposera hier à Beauvais. Donc rendez-vous fixé à 19h. Et puis une petite question, les amis, au niveau du football européen. Petite parenthèse. Quel est le chiffre du week-end? Le chiffre qu'il faut retenir? Alors, vous, je suppose que.
Milan, ils ont gagné 8 matchs sur leurs 9 dernières rencontres.
7. Julien, la bonne réponse. Il s'agit de 20. 20, je ne sais pas si vous le savez, c'est le nombre de points qui sépare Anderlecht au standard. Moment historique. Anderlecht qui a été écrasé le standard 0-4 à Sclessin et qui compte désormais 20 points d'avance sur les doubles champions en titre. Voilà. Ça, je devais le dire parce que c'est un événement. Et vous imaginez pas mon émotion.
Chris, puisqu'on parle des clubs au niveau régional, je vais te parler d'Aubervilliers qui a malheureusement terrain impraticable.
Donc voilà, j'ai plombé l'ambiance, mais donc demain, 19h, le match de Beauvais. Voilà.
Franchement, Chris, peut-on compter la Jupiler League dans le championnat européen? Je ne pense pas.
Voilà, donc petite parenthèse donc demain pour le match de Beauvais, petite parenthèse anderlectoise. Et Arnaud, cette fois-ci, c'est toi qui as le mot de la fin.
Il est parti.
Malheureusement, Arnaud nous a quitté.
Ah ben, celui qui veut a le mot de la fin.
Alors, ouais. Ce sera un petit freestyle. Je dirais personnellement, David, ne boude pas, s'il te plaît, reviens, c'est plus drôle sans toi.
Il va rarement casser la jambe.
Voilà. Et allez, bref, hein, à santé.
Et allez Brest, merci à tous ceux qui ont fait l'émission, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Nous on se retrouve très prochainement sur Génération Soccer demain, ce mardi à 19h. Bonne nuit à toutes et à tous. Je vais pas les tarder parce que je suis un petit peu malade comme tout le monde, mais c'était un bon moment.
On remercie tout le monde, tous ceux qui étaient en régie, Christelle, Bruno, Pascal qui étaient en régie, qui nous organisaient
les totalement.
C'était vraiment super, merci à tous.
Et la petite stagiaire.
Une équipe de pros qui était très souvent en dessous du bureau durant l'émission. Voilà, sur ce, au revoir.